Mandasline.ca Canada. All Org Amazon.
Cloudflare.
De Cloudflare. Suivante des États-Unis, Monsieur Ardan du CCTLD. Vekeris.sc. Et on travaille avec le DNSSEC depuis 2006. Hein, et je ne sais pas si vous le faisiez déjà depuis ces dernières années. Navid Bernris, du Pakistan, de l'Université de la Capitale. Prochaine personne suivante. On travaille depuis 1960 sur cette question. Boursier ICANN des îles Fidji. Étude ICANN de l'Afrique. Dan au micro. Bien, on a encore des personnes ici. Ben Ovran. Yar Parker. Je travaille avec le DNSSEC avant même la normalisation. Personne suivante de Zambie. Personne suivante de la Tanzanie. Bonjour à tous. Sonan du Bhoutan. Je suis venue ici pour en apprendre plus sur le DNSSEC, parce que cela n'a jamais été mis en œuvre dans mon pays. Donc, je suis venue ici pour apprendre quelque chose. Rajiva, du Sri Lanka. Boursier ICANN. Bouza Zakaria, du Maroc. Esloui Mohamed, du Maroc. Bien, il ne nous reste plus personne. Monsieur, vous voulez dire votre nom ? Barrio Romso, point Rio. José Orsoa, point CL. CL, oui. Personne suivante de l'Inde. Est-ce qu'il nous manque des gens? Oui, Dani de Cloudflare. Quelqu'un d'autre? Bonjour. Sarah de point BRPT du Portugal. Bram Putsuan du Malawi. On devrait faire ça plus souvent, en fait. Hein, c'est bien, c'est intéressant. Bonjour, Robert. Robert Martin-Légène du Centre d'échange sur les marques commerciales. Donc, bienvenue à tous à cet atelier de travail sur le DNSSEC. Excellent exercice hein, pour commencer cet atelier de travail. Alors, vous devriez regarder ce petit document pour ceux qui n'ont jamais participé à un atelier de travail sur le DNSSEC. Je ne vous conseille pas de rester jusqu'à 14h15 cet après-midi dans cette salle, sans jeter un coup d'œil sur ce document. Notre ordre du jour, pour voir ce qu'on va faire, l'ordre des présentations, etc. Et Julie, vous vouliez dire quelque chose? Julie au micro, oui. Je voulais vous dire que pour le déjeuner, vous allez recevoir un ticket avec une carte au dos. Le déjeuner, ça ne va pas être ici. Ça va être à l'extérieur. Mais ça n'est pas tout prêt. On va vous donner 2 minutes pour aller chercher ce papier. Parce qu'il faut que vous ayez votre ticket. Donc, gardez-le sur vous, même si vous voulez quitter la salle avant. Assurez-vous d'avoir ce ticket sur vous. Dans nos micros. Oui, je vais dire aussi au personnes qui vont intervenir, que Russ Mundy a un chronomètre sur lui. Donc, sachez qu'il va s'assurer que nous respectons tous notre ordre d'intervention et le temps qui nous est imparti. Donc, diapo très rapidement ici. Je m'appelle Dan York. Je fais partie du comité du programme. Ah, la présentation ne marche pas. ça ne marche plus. Ça ne marche plus. On a un petit problème technique avec la présentation. Très bien, ça marche. Allons-y. Alors, diapo suivante. Alors, en théorie, il devrait y avoir des vidéos sur YouTube dont vous voyez les liens à l'écran. Ça marche ? Non, en fait, les liens vidéo, ça ne marche pas sur Adobe Connect. Non, ça ne marche pas sur Adobe Connect. Bon, ça ne marche pas, non ? Écoutez, c'est pas grave. Bon, alors ça, on l'a fait à Dublin pour la réunion 54. Il y a un comité du programme. Combien de membres de ce comité se trouvent dans la salle ? Levez la main. Donc, il y en a plusieurs qui ont participé à ce comité et à l'organisation de cette réunion. Donc, nous sommes les responsables, entre guillemets, de cette réunion, des présentations. Donc, voilà le comité du programme. Pour la prochaine réunion 56 qui devait avoir lieu au Panama. Alors, voilà les sponsors qui nous ont permis d'organiser cette réunion. Afilias. Est-ce qu'on a une personne qui représente Afilias dans la salle ? Non, Jim va venir dans un instant. Syrah, Jacques. Et Amanda aussi, hein ? Dine. Et SIDN, je sais que Christian était dans les parages. Merci à ces gens parce qu'ils nous aident. Ils nous ont aidés pour le déjeuner. Hein. Écoutez, si vous le permettez, je vais les remercier maintenant. Afilias aussi, qui a aidé à la réunion également des spécialistes en mise en œuvre de NESEC. Ensuite, diapo suivante. Nouvel intervenant au micro. Oui, je crois que pour la conférence B, DNSSEC et l'autre équipe travaillera en plus étroite coopération. Donc, j'espère que ça donnera des résultats. Dan au micro. Oui, j'aimerais également dire que la personne qui a coordonné cet événement a fait un très bon travail parce que la personne qui est là-bas, .tr, nous a fait une excellente présentation sur les menaces et attaques qu'il y a eu en Turquie. Donc allez-y, monsieur. Nouvel intervenant micro. Non, en fait, ce n'est pas moi qui vais faire la présentation. Excusez-moi. Moi, je suis Dami. Dan au micro, excusez-moi, j'ai confondu. Bon, écoutez, c'est pas grave. Allez voir cette présentation, c'est une excellente présentation. Également, ce monsieur de la Tanzanie qui a fait une excellente présentation sur ce qu'il fait par rapport au DNSSEC et la raison pour laquelle il est ici aujourd'hui. Excellente présentation aussi. Diapo suivante. Atelier de travail offert par le SAC de l'ICANN avec l'assistance de l'Internet Society avec le Deploy 360 programme. Voilà notre ordre du jour. Vous devriez en avoir un sous les yeux qui va vous permettre d'avoir une idée sur ce qu'on va faire aujourd'hui. Vicky va nous en dire un peu plus sur le DLV, aussi ce qui se passe du côté du DNSSEC en Afrique. Ensuite, une présentation de Volane sur le switch over du DNSSEC. Également Claire. Et pour ceux qui n'ont pas participé, nous avons l'excellent questionnaire sur le DNSSEC. Et qui a remporté cette petite compétition pour l'ICANN 54? En tout cas, cette personne est connue maintenant, hein, puisqu'elle a remporté ce petit questionnaire. Ensuite, comment améliorer la cryptographie sur le DNSSEC? Là encore, on a d'excellentes présentations avec une discussion sur le case cable et ce qui s'y produit là-bas. Julie est en train de dire quelque chose, mais c'est sans micro, donc je ne l'entends pas. Dan au micro, bien, écoutez. Il semblerait que ce ne sont pas les bonnes informations que je suis en train de vous montrer à l'écran, donc ce n'est pas grave, on va faire sans présentation pour l'instant. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Je ne sais pas, Robert. Oui, je sais. Normalement, il fait froid ici, mais là, il fait chaud. Bon, écoutez, je suis désolée, Julia, de ces problèmes. C'est peut-être moi qui suis à l'origine de tous ces problèmes, parce que Julie est très, très efficace, normalement, avec tout cela. Donc, elle est en train d'essayer d'actualiser les liens. Mais en fait, c'était moi qui étais derrière tout ça. Désolée pour ceux qui suivent à distance. La personne parle sans micro, je n'entends pas. Dan au micro, oui. Alors, la dernière fois, quand on était à Dublin, il n'y avait pas de caméra. Donc, on ne pouvait pas projeter des vidéos. Ce qu'on a fait, c'est que je suis venue avec une caméra au dernier moment et on a filmé avec ça de manière improvisée. Aujourd'hui, on a une caméra là, sur le portable qui est au milieu de la pièce, hein, de la salle. Et avec ça, on peut projeter en direct. Nous y voici. Donc là, c'est la bonne présentation, n'est-ce pas? Oui. Attendez, revenez en arrière. Voilà. Parce que Christian a un nouveau logo ici. Ce nouveau logo du DNSSEC. Donc, on cherche un cinquième sponsor, une entreprise qui serait disposée à nous aider à financer ces événements. Vous aurez la possibilité, si vous voulez nous aider à financer ces événements, à figurer sur la liste des sponsors et sur les tickets déjeuner aussi. Donc, nous remercions tous nos sponsors et ceux qui veulent le devenir, nous les remercions d'avance parce que c'est toute une organisation pour réserver la salle de déjeuner, etc. Voilà certaines des personnes qui ont participé à cet événement. Ici, sur la photo, on a passé un très bon moment, on a parlé avec les développeurs, etc. Donc, les uns et les autres ont eu l'occasion de se parler. Ensuite, alors, on veut parler de statistiques portant sur le DNSSEC, les cartes. Et j'aimerais vous rappeler que lorsqu'il s'agit de ça, il y a deux parties, la partie signature et la partie validation. Donc, il faut d'abord signer, puis valider la signature. Alors, première présentation de Jeff Houston grâce à ce graphe extraordinaire. D'ailleurs, ces présentations sont disponibles sur le site de l'ICANN. Mais le diagramme de Jeff montre l'augmentation continue dans la validation du DNSSEC à niveau mondial. Donc, on voit une augmentation continue dans le nombre de validations. Cette chute ici importante en septembre, ça, c'est dû à un événement particulier, mais ensuite, c'est une augmentation constante. Alors, Ici, vous n'arrivez pas à le voir, je suis sûre d'où vous êtes parce que c'est écrit en petit, mais ce qu'il est intéressant de noter, c'est la vision générale de ce qui se passe au niveau des validations dans le monde. Si vous regardez tout en haut, certaines des régions au monde où il y a le plus grand nombre de validations d'NSX se trouvent en Afrique, en fait. Hein. Mais vous pouvez voir les régions où il y a un niveau le plus élevé. Hein. Je crois que c'est 34% en Afrique. Diapo suivante. Ensuite, vous voyez ici la perspective mondiale sur la validation d'NSSEC en Afrique. Là aussi, c'est très élevé. Si vous regardez un petit peu plus dans le détail, vous voyez qu'il y a une utilisation plus élevée également des données y afférentes et de IPv4, IPv6. Ça, on ne peut pas le voir d'ici.
Si vous voyez les statistiques de Jeff, vous voyez ce qui se passe. Certains des pays qui sont représentés ont un gros pourcentage de validation, mais c'est surtout parce qu'ils utilisent le DNS public de Google. Vous voyez que Nassar a 8% du DNS Google, ça veut dire que les autres 90%, c'est la validation DNS qui se passe au sein des ISP locaux qui ne sont pas de Madagascar. Donc, c'est une bonne nouvelle. Au niveau signature, vous voyez les pourcentages maintenant de TLD qui ont été signés. Nous en sommes à plus de 80%. La plupart d'entre eux sont des nouveaux GTLD qui ont été signés par défaut. La prochaine diapo, je ne peux pas lire d'ici, mais la prochaine fois, je sais que je vais faire les choses en plus grand pour pouvoir les lire de loin. Je peux pas aller plus loin. Je peux aller plus près puisque j'ai un micro mobile. Merci Robert de me le dire. Donc, vous voyez au-dessus, .nl arrive donc en premier avec 44% de leurs domaines qui sont signés, avec plus de 2 millions. Oui, vous êtes là. Vous voyez, vous faites du bon travail. Le Brésil est là aussi avec un grand nombre de signatures. Ce que je vois du côté de Rick. Oui, Rick vous dira si vous cliquez sur le total, vous pouvez si vous voyez, je vois donc .com un grand chiffre, alors qu'il y a un pourcentage qui est assez bas, mais on voit qu'il y a une augmentation, on voit que les pourcentages augmentent. Prochaine diapo. Nous avons 5 étapes. C'est pour l'expérimentation. Nous savons que ces gens travaillent un peu sur le DNSSEC. On ne sait pas encore s'il y a le DS est partiel. Ensuite, le DS est dans la racine. Ensuite, certains d'entre vous m'ont demandé pourquoi est-ce que notre carte montre encore le DS dans la racine et qu'elle n'est pas opérationnelle. Je n'ai pas aucun moyen de le savoir, à moins que vous me disiez que vous acceptiez. Donc, si vous acceptez les informations DS, il faut me les laisser savoir. Voilà, donc une grande vue d'ensemble. Vous voyez qu'il y a de plus en plus de verts hein, où les choses sont opérationnelles. Ah oui, il y a des endroits où on doit encore faire plus de travail. Mais voilà, pour l'Afrique, il y a quelque chose qu'on devrait rajouter ici parce que pour les gens du Maroc, félicitations, vous avez signé, mais vous avez signé après que je prépare cette présentation. Donc vous serez sur la prochaine diapo. Il y en a Botswana qui a aussi signé depuis. Donc, il y a donc beaucoup plus de croissance maintenant. Hélène participe énormément sur le programme Afrique qui fait beaucoup pour étendre la signature en Afrique. L'Asie-Pacifique, en cette région générale du Moyen-Orient, il y a un changement depuis la dernière fois. C'est l'Azerbaïdjan qui a signé .az. L'Europe n'a pas changé depuis la dernière fois, comme vous le voyez. L'AC non plus. L'Amérique latine n'a pas changé. Les Caraïbes n'ont pas changé. L'Amérique du Nord non plus. Ça changera pas. Ensuite, ces cartes sont publiées tous les lundis matin. Nous les mettons à jour. Vous pouvez les retrouver sur le site. Nous avons aussi un calendrier avec tous les événements des DNSSEC qui y sont notés. Vous pouvez ainsi aller voir cela sur le site. Vous savez qu'on a ce qu'on appelle un hackathon. L'IETF fait ça avant l'IETF le week-end. Cela a été fait il y a plusieurs années. Tous ces gens qui travaillent sur la vie privée du DNSSEC, sur Dane et ainsi de suite, il y a même des récompenses qui sont distribuées pour leur hackathon. Et donc, il y a un autre groupe qui va se retrouver. Si vous allez aller au IETF, vous savez, les développeurs seront là. Ils veulent travailler sur les projets de sécurité DNSSEC. Et nous aimerions que vous y participiez si vous le voulez. Ensuite, il y a un projet d'histoire DNSSEC et nous continuons à essayer de retrouver des informations de retour. Là, nous allons donc continuer tout de suite en passant la parole à Julie. Nous avons deux questions dans la salle chat. La première vient de Marcus du Village Global. Il a une question sur les statistiques que vous avez rajoutées. Pourquoi est-ce que Mayotte a un taux de révaluation de 95% et que son utilisation Google est à 96%. Notre intervenant, c'est pas seulement Google. Il y a d'autres validateurs. Je pense que c'est de l'autre côté. C'est plus lent. En fait, c'est plus bas comme pourcentage. Déjà, pour mettre plus de résolveurs dans leur configuration locale. Et il est souvent le cas que les ISP pourraient lister donc Google en tant que résolveur. Quand on parle de DNSSEC, on peut voir que quand on va sur un domaine qui n'est pas bien signé, et Mayotte en a un, cela ne dit pas que ça a été mal signé. Le retour d'information des DNS, c'est que ce serveur est en échec. Si le résolveur ne valide pas la réponse, vous allez être mis sur le mauvais chemin et vous allez aller sur un domaine qui n'a pas été bien signé. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des résolveurs locaux en addition de Google et Google va leur dire vous n'allez pas là parce que c'est pas bien signé. Donc, oui, je sais. Donc, en fait, les bonnes réponses ne sont pas sélectionnées. Il y a des gens qui font cela et c'est un peu stupide. Julie, oui, la personne a trouvé la réponse, donc tout va bien. La prochaine question a déjà été répondue, donc ça va. Bon, Dan, au micro, oui, tout le monde peut poser des questions quand vous voulez. Nous sommes là pour ça. Nous ne mordons pas, donc nous sommes heureux de pouvoir vous parler de tout. Donc, Vicky, vous pouvez passer à votre présentation. Vous pouvez utiliser le micro ici ou vous pouvez continuer de votre place. Nous n'avons pas de clicker. Nous allons essayer de voir ce qu'on peut faire avec le clicker. Je suis Vicky Hiss. Je viens d'ISC. ISC.org. Nous publions les systèmes Bind open source. Aujourd'hui, nous allons parler du DLV. Le DLV, cela veut dire le validateur Lookaside DNS. Et c'est quelque chose que ISC a développé en 2016. L'idée derrière cela était que les gens qui voulaient utiliser le DNSSEC avant la racine et que les TLD étaient signés, pouvaient utiliser donc de DLV comme un parent adoptif, si vous voulez. Et à ce moment-là, comme vous l'avez déjà entendu de la part de Dan, un grand pourcentage de TLD sont donc signés, et la racine est signée. Et donc ensuite, le DLV a accompli donc ce qu'il pouvait faire pour assister dans cette adoption précoce. Il faut continuer à avoir ce chemin, disons, d'alternative pour pouvoir valider votre DNSSEC. Ainsi, on peut décourager les adopteurs qui restent. Il y a un an, en 2015, ISC a annoncé que nous allions éteindre le DLV, arrêter le DLV à la fin 2017. Je suis désolée à cause ma diapo est écrite en très 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 petit, mais à Singapour en février dernier, nous avons mis à jour la page principale du site. Nous avons mis cela sur notre propre site, donc nous sommes passés du DLV, du site DLV au site isc.org. Nous avons fait une mise à jour des listes de distribution, du Bind 0S, et nous avons envoyé un courriel à tous les utilisateurs de DLV. Nous voulons nous assurer que nous allions décommissionner cela, bien sûr, avant de l'arrêter. Notre plan, donc, était de commencer un processus étendu afin de décourager les gens à faire des requêtes de DLV. Donc, nous voulions arrêter tout cela et commencer graduellement à retirer la zone dans le DLV avec le temps. Notre plan est donc de continuer à répondre aux requêtes au sein du DLV de façon indéfinie parce que c'est mieux pour le résolveur de recevoir une réponse négative rapide et de ne pas recevoir que de ne pas recevoir une réponse et de continuer à faire la demande. Voilà donc un exemple des courriels que nous avons envoyés. Nous avons envoyé ça en juin l'année dernière. Nous sommes allés dans notre système. Nous avons vérifié pour voir quelle était la zone de chaque utilisateur, pour voir si ces zones travaillaient, si elles pouvaient valider sans le DLV. Et ensuite, nous avons envoyé l'information sur chaque zone et on a demandé donc aux gens de les retirer si possible. Donc, je vais vous montrer maintenant deux, trois exemples de réponses que nous avons reçues qui sont très représentatives. Cette fois, celle-ci, je sais d'ailleurs de qui elle venait. Cette personne est très engagée vis-à-vis du DNSSEC, mais n'avait pas d'autre manière d'avoir leur zone inversée signée. Il y a beaucoup de gens, ça dépend où ils sont, n'ont pas forcément le choix d'ISP. Donc cet utilisateur n'avait pas une autre manière de signer sa zone inversée. C'est une autre personne, il s'agit d'une autre personne, pardon, qui a donc une voie pour signer, mais qui ne peut pas obtenir que sa zone parente accepte ses informations. Ce sont deux réponses très communes, en fait. Si je vous montre cette présentation, c'est parce que je sais que beaucoup d'entre vous dans cette salle ont de l'influence pour améliorer les informations pour ces utilisateurs qui veulent s'engager vis-à-vis de DNSSEC et qui signent leur zone depuis 2006 et qui vont rencontrer des problèmes quand on va arrêter le DLV. Depuis que nous avons commencé à poser la question aux gens et à leur demander de retirer leur délégation, s'ils le pouvaient, nous avons retiré 800 et quelques zones, des zones fonctionnelles. Il y avait beaucoup, beaucoup plus de zones qui ne fonctionnaient pas. Je pense que beaucoup de gens utilisent le DLV en tant qu'outil de formation, d'apprentissage. Les 2000 et quelques qui restent n'ont peut-être pas d'autres options afin de garder leur sécurité DNSSEC, de conserver leur sécurité. Nous avons déjà étendu le calendrier avant de pouvoir purger les zones qui pourraient valider sans le DLV. En ce moment, où vous voyez la ligne bleue, on en est là. On s'apprête à arrêter les enregistrements dans les nouvelles zones qui pourraient valider sans le DLV. Et comme vous le voyez, à la fin, ici, en juillet 2016, c'est là que l'on pense retirer tous les DLV. Il y aura donc 2 ans pour que les gens retirent leurs informations. Donc, jusqu'à présent, ce que je vois, c'est que nous allons être obligés de forcer les gens à ne pas être sécurisés, les gens qui n'ont pas forcément une autre manière de faire. Donc voilà, même 2 ans n'est pas suffisant, apparemment. Nous avons parlé des informations dans le DLV. Maintenant, nous allons parler des requêtes de résolveurs du DLV, les résolveurs qui essaient de valider le DNSSEC. mettre des requêtes sur le DEV met une charge supplémentaire sur les résolveurs, surtout s'ils ne sont pas sont des zones importantes. Donc, il est donc dérisoire de minimiser ces requêtes en allant de l'avant. Donc, après 2017, il n'y aura plus de zones dans le DLV. Donc, ce sera complètement inutile pour les résolveurs de faire des requêtes. Nous voulons donc décourager cela. Paul n'est pas là, donc. Ah. Une des personnes qui nous a aidés avec cela, qui nous ont aidés à retirer les requêtes vers le DLV et le remettre sur la configuration défaut. Et d'autres packagers ont fait la même chose. L'équipe d'élaboration Unbound aussi nous a aidés avec la configuration défaut. Nous ont mis aussi une DOPT dans leurs recommandations qui recommandent à ce que l'on ne fasse plus de requêtes au DLV. Nous avons donc beaucoup moins de requêtes maintenant que l'on en avait il y a un an. Et puis, comme je vous ai dit, le processus d'arrêt ou de fermeture sera complété d'ici 2017, mais on s'attend à ce qu'il va y avoir encore des requêtes au DLV après cela. Donc, nous allons laisser le service en route, disons. Donc, en résumé, le ISC a créé le DLV pour encourager plus d'utilisation du DNSSEC et nous avons fait du bon travail. Ce n'est pas une solution pour le problème systémique de non-support dans la chaîne du DNSSEC en général. Mais nous continuons tout de même à planifier sa fermeture. Je voulais remercier Afilias pendant le projet. Afilias a donc fourni des services pour le DLV. C'est tout. Dan au micro, une question. Donc, d'ici 2017, est-ce que le DLV va continuer à fonctionner? Oui, Julie, elle va répondre aux requêtes, mais il n'y aura plus de zone dans le DLV. Nous allons continuer à répondre aux requêtes parce que nous voulons aider les résolveurs à aller plus vite. Dan, oui, mais le service DLV sera donc fermé en juillet 2017. Il y a d'autres questions? Ross, et ensuite Hélène. Ross, merci Vicky pour cette présentation. J'ai vraiment apprécié. Je voudrais aussi focaliser sur le fait que chaque personne dans cette salle, si vous êtes allé à la session des débutants, vous m'en avez entendu parler. Malgré tout ce que vous faites avec le DNSSEC, continuez à demander plus de support DNSSEC, que ce soit de vos bureaux d'enregistrement ou de vos opérateurs d'enregistre ou de vos vendeurs. Comme je vous l'ai dit l'autre jour, il y a beaucoup d'activités qui ne pourront pas être validées. Donc, la meilleure façon d'avoir une utilité plus importante du DNSSEC dans l'industrie, c'est de s'assurer que tous les supporteurs de toutes les fonctions qui incluent le DNS fassent la bonne chose afin que le DNSSEC soit disponible pour tous les gens qui veulent l'utiliser. Donc, posez vos questions. Julie, oui, je voudrais être capable d'envoyer ces gens vers un opérateur, un ISP, qui pourrait les aider pour qu'ils puissent maintenir leur chaîne de confiance DNSSEC après la fermeture des TLV. On nous a déjà demandé ces informations, mais je me rends compte maintenant que, en fait, si nous avions fait payer de l'argent à ces gens-là, on pourrait utiliser cet argent maintenant à faire autre chose et créer un peu un marché pour cela. Mais c'est un peu trop tard pour ça. Daniel, Hélène? Non, j'ai vu Hélène poser sa question en premier. Hélène, au micro. D'abord, je voudrais remercier ISC. Durant la discussion au départ, nous savons qu'il n'était pas facile de recevoir une décision consensuelle de la part de la communauté à ce sujet. Les gens dans cette salle se rappellent des discussions qu'on a eues sur le DNSSEC, les fonctions du DNSSEC. Je pense qu'il était donc très utile d'en apprendre plus de la part de ISC. Et dites bonjour à Paul Bixet pour moi. Julie, oui, je n'étais pas à l'ISC à l'époque, mais on m'a dit qu'il y avait beaucoup de conflits à l'époque. Nouvelle intervenante, c'est bon que vous en terminiez avec le DLV. Moi, je pense que la technologie reste à travers d'autres logiciels. Donc, les gens pourraient faire leur propre DLV s'ils le voulaient, si j'ai bien compris. Est-ce que vous savez ce qui reste de tout cela? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a des pays qui ne supportent pas cela encore? Vicky, oui, il y a encore des zones inversées. J'ai parlé aux gens de DE. Il y avait des gens dans l'académique, dans le... Je pense que vraiment, un peu partout, il y a des gens qui ne le font pas. Je ne sais pas si je peux vous dire exactement ce qui reste. Il y a des gens qui utilisent cela en tant que mécanisme de transition quand ils passent un fournisseur à un autre et qui n'ont pas de coopération de ces fournisseurs. Je pense que la délégation est temporaire. Je ne sais pas si c'est une chose, tout simplement. Ce n'est pas si logique que ça. Il y a quelques personnes qui gèrent beaucoup de délégations à travers cela, mais en général, c'est les 1Z, 2Z.
Anyone else?
Yeah.
Quelqu'un d'autre? Oui, André, dans la salle? André, au micro, oui. En fait, vous venez de répondre un petit peu ma question. Vous voulez le fermer, n'est-ce pas? Parce que le nombre de requêtes fait que, bon, il n'y a pas beaucoup de zones. Et que se passerait-il si demain vous l'arrêtiez? Si vous le fermiez, je pense que vous pourriez fermer le DLV selon vos plans. Mais ma question, vraiment, c'est est-ce que vous avez peur de ce qui va se passer une fois que vous allez fermer le DLV? Je ne pense pas qu'il y aura des dommages par rapport à votre réputation. C'est la seule chose qui pourrait se passer, mais je ne pense pas que ça va se passer. Vous pouvez tout simplement le tuer, le DLV. Vicky au micro, oui, les gens qui sont au DLV ne sont pas précisément heureux de cela, mais y a-t-il d'autres questions? Nouvel intervenant. Oui, je pense que les gens qui sont heureux que vous le tuiez ou que vous l'éliminiez sont déjà partis. Hein. Dan au micro. S'il y a des gens dans la salle qui souhaitent intervenir, n'hésitez pas à lever la main ou vous manifester pour savoir que vous vouliez prendre le micro. Bon, j'aimerais reprendre ce qu'a dit Hélène. Merci à Vicky et ISC de cette outil particulièrement utile pendant la transition. Merci beaucoup. Alors, présentation suivante, on a besoin des membres du panel régional qui vont faire cette présentation. Alors, je vais passer à Marc qui va être modérateur pour cette séance. Marc Algan au micro, modérateur de la prochaine séance. Alors, le premier membre du panel vient nous rejoindre, mais très lentement. Oui, oui, mettez-vous en face pour qu'on vous voie sur la vidéo. Alors, premier présentateur, on en a quatre, y compris moi-même. Premier, Alan Eina, très actif dans la communauté afrinique. Il a sa propre entreprise. Il est très engagé dans l'Afrinique, l'organisation de formation en Afrique. Il a également été, depuis novembre, le directeur de projet pour Afrinique et a passé beaucoup de temps sur l'île Maurice pendant toutes les choses qui concernaient le DNSSEC, par exemple. Toute l'Afrinique a le DNSSEC pour le reverse, y compris V6 et le Legacy, ce dont je me réjouis. Il travaille également comme consultant sur le DNSSEC et les projets liés à ce DNSSEC. Je pense qu'il va d'ailleurs nous en parler dans un instant. Alors, Alain au micro. Oui, merci Marc. Et si je parlais en français? Non. Non. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont leurs écouteurs. Écoutez, si vous préférez faire la présentation en français, on peut mettre les écouteurs. Merci, Marc. Comme vous le disiez, je viens faire cette présentation en tant que consultant ICANN pour le roadshow en Afrique du DNSSEC. Et sur la carte, vous pouvez voir que l'Afrique est en retard par rapport à l'adoption des CCTLD du DNSSEC. Et je dois dire que ce que vous avez vu en 2015, les chiffres que vous avez vus pour 2015, sont bien meilleurs que ceux de 2013 lorsque nous avons commencé. Mais on a encore beaucoup à faire. Donc, ce roadshow du DNSSEC fait partie de la stratégie Afrique ICANN. Et on essaie d'aider les CCTLD en Afrique à comprendre ce dont il s'agit. Qu'est-ce que le DNSSEC? Comment l'améliorer? Nos services à la communauté, etc., etc. Mais ça n'est pas une chose facile du tout. Parce qu'on sait tous que le DNSSEC entraîne certaines complexités dans le DNS. Et lorsque vous n'avez pas d'opération de registre de DNS fiable, c'est difficile d'ajouter le DNSSEC. Donc, si vous allez sur dnssec.africa/org ou plutôt /africa.org, vous verrez les résultats enregistrés en Afrique et la progression historique. C'est la première fois qu'on voit une clé DNSSEC pour un CC. On l'a d'ailleurs inscrite. Et on inscrit également la date de la première signature CC. Mais on continue à suivre les changements, les algorithmes. Nous avons 9 CC sur le continent. Qui sont distribués par zone. Donc, signature de zone, ça, c'est une chose. Mais être opérationnel, ça veut dire accepter le DS de la part de votre bureau d'enregistrement, c'en est une autre. Donc, là, c'est une toute autre histoire. Hein. Et je crois que, dans un instant, on va nous en dire un peu plus sur la manière... Donc, sur le nombre d'enregistrements DS signés depuis 2009, etc. Donc, nous avons 3 CC qui ont actuellement des clés DNS avec des zones de signature clés qu'on appelle zone racine au Sierra Leone. Donc, on suit cela de près. Pour ce qui concerne le roadshow du DNSSEC, ce qu'on fait, c'est qu'on se rend dans les pays et on organise un événement sur 3 jours. Le premier jour, on se réunit, on demande à nos hôtes d'inviter toutes les parties prenantes, parce que le DNSSEC ne concerne pas simplement la signature, mais aussi la validation. Donc, on demande aux pays hôtes d'inviter les FSI, les fournisseurs de services Internet, bref, tout le monde, toutes les parties prenantes qui ont à voir avec le DNSSEC. Ensuite, on présente les avantages, en quoi consiste le DNSSEC, et on présente les membres de l'équipe d'experts du DNSSEC. Et on montre aux gens comment déployer le DNSSEC, notamment la validation, etc. Et le dernier jour, on s'assoit avec les CC dans une pièce, dans une salle, et on leur demande, voilà, montrez-moi votre système de registre, et on leur montre comment ils peuvent déployer le DNSSEC, et on leur propose un plan. On essaie d'appliquer ce plan, mais ce n'est pas toujours facile. Souvent, les registres ne sont pas fiables. Il n'y a aucun outil de surveillance. Il n'y a pas de ressources humaines qui puissent s'y consacrer. Donc, on dit, écoutez, on va d'abord régler le problème de votre registre et ensuite, on va ajouter le DNSSEC. Donc, ici, voilà ce qu'on fait sur le terrain, dans les régions, et nous espérons que nous allons pouvoir améliorer l'adoption du DNSSEC en Afrique. Et l'année dernière, me semble-t-il, je crois que vous avez tous entendu parler des deux incidents du DNSSEC. Imaginez, vous essayez de promouvoir l'adoption du DNSSEC, mais malheureusement, l'année dernière, on a eu deux incidents liés au DNSSEC. Au Botswana et au Kenya. Donc, ces deux incidents nous ont montré qu'il fallait retourner dans ces deux pays, gérer les incidents et s'en remettre. Donc, à l'ICAN, on analyse bien ces aspects, on en parle dans les roadshows pour... On appelle les CC pour parler justement de la gestion en cas d'incident, de parler de la poursuite de la mise en œuvre des plans. Donc voilà, Marc, pour répondre à votre question. Marc au micro. Oui, je pense qu'on va garder les questions pour la fin de la séance, si vous en êtes d'accord. Donc écrivez vos questions et on y répondra à la fin de cette séance. Merci beaucoup, Alain. Ça fait maintenant de nombreuses années que je connais Alain, si vous allez à un événement Afrinic, alors sachez que ça n'est pas un événement Afrinic, hein, s'il n'est pas là. Merci. Bien. Alors, le prochain orateur, ben, c'est moi-même. Si j'en crois l'ordre du jour, c'est à moi de parler. Donc, je vais vous faire un rapport très bref sur ce qui se passe en Afrique du Sud. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on fait des formations sur le DNS. Depuis la première conférence ICAN en Afrique du Sud, à Cape Town. Donc, une formation avancée, c'est-à-dire on a formé les gens par rapport au DNSSEC. Et je pense qu'on en a vu les fruits. Moi, ça fait 7 ans que je travaille au DNSSEC. Et je travaille sur un système, s'il vous plaît, ne le retirez pas. Oui, d'ailleurs, j'allais poser cette question lors de la présentation de Victoria, mais je me suis retenue. Alors, on devrait savoir que le ZARPP, IPPP, a une extension du DNSSEC et moi j'ai participé au roulement de la clé depuis ces dernières années. La raison pour laquelle .za n'est pas signé, c'est que les trois vir GTLD Durban et autres ont signé et fonctionnent bien. Lorsque j'ai regardé cette zone récemment, il n'y a qu'un domaine signé et moi, je suis justement la personne qui l'a introduit. Donc, comme je l'ai dit, cela a porté ses fruits. Toutes ces formations ont porté leurs fruits. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que Télécom Afrique du Sud semble faire les choses de leur côté et ne parlent pas aux gens, mais ils viennent à ces cours de formation parce qu'elles sont gratuites. et il gère des résolveurs DNS avec 15% des requêtes en Afrique du Sud. En tout cas, il y a un chiffre de 15% qui circule. Et j'aime aussi parler de l'augmentation en Afrique de l'Ouest, de l'Est, pardon. Et d'ailleurs, lors de la dernier forum africain, j'ai vu les résolveurs de l'époque et je suis satisfait de voir que les chiffres sont bons. Donc l'Afrique du Sud devrait signer très prochainement, mais ça ne se passe pas pour l'instant pour le point Z. Comme je l'ai dit, les installations pour introduire dans la zone sont là, mais ça ne se produit pas. Les ZACR s'occupent des points ZA, point ORG, etc. Ensuite, autre domaine en Afrique du Sud. Tout n'est pas géré par des organisations centrales, mais il y a une délégation pour faire les choses au deuxième niveau. Donc il y a peut-être ici source de confusion. Moi, je m'occupe de ZA. Un autre ami s'occupe d'un autre domaine. Et ensuite, il y a les enregistrements DLV. Et ensuite, des petits domaines qui sont signés. Du point de vue africain, en tout cas de mon point de vue, tous les inversés sont là et le sont depuis longtemps. Vous n'allez jamais voir une personne en Afrique se plaindre du fait qu'elle ne peut pas faire un DNS sec inversé en tant que tel. L'ICANN a lancé un IRP pour une étude en Afrique. Moi-même et un collègue, Staki, qui est ici dans la salle, et 15 autres personnes travaillent ou participent à cette étude. Cette étude consiste à voir les choses qui sont signées dans le DNSSEC. Donc ça, c'est en cours. Mais si vous êtes ici en tant que CCT, en tant qu'administrateur, bureau d'enregistrement ou opérateur de registre africain, alors vous allez recevoir les résultats et ce rapport, cette étude va vous intéresser parce qu'on collecte les données dans les différentes présentations des gens. Et donc, votre contribution pour nous aider. Je crois que j'en ai fini avec ma présentation. Troisième membre du panel ce matin, Sarah. Oui, oui, vous m'avez donné votre CV, Sarah, n'est-ce pas? Green Computer Science. De l'Université de Lisbonne. Vous êtes portugaise, membre de l'équipe d'infrastructure au DNSSEC.pt depuis 2006, responsable de la gestion du CCTLD au Portugal. Donc, plusieurs fonctions dans le domaine technique. Vous faites plusieurs choses. Activité avec le DNS, avec l'extension du DNSSEC. Et vous allez nous parler en anglais, n'est-ce pas? Parfait, parfait. Bonjour. Comme Marc l'a dit, je suis membre du CCTLD.pt, donc je fais partie de l'équipe technique. Mais aujourd'hui, je suis ici pour représenter certains CCTLD africains où nous sommes le contact technique pour l'IANA. Alors, je vais vous parler spécifiquement. Avant de vous parler spécifiquement de certains CCTLD, j'aimerais vous en dire un peu plus par rapport à l'OUSNIC, C'est ça, une association de CCTLD lusophone qui a été créée l'année dernière, dont la mission est de promouvoir et coopérer dans la défense de l'intérêt des CCTLD de langue portugaise. Donc nous pensons qu'avec cette association, nous allons pouvoir aider certains CCTLD, en particulier en Afrique, et d'autres CCTLD. Pour les aider d'une manière générale et pour qu'ils coopèrent entre eux. Alors, l'OSNIC, comme je l'ai dit, a pour principale fonction de partager les résultats des recherches dans le domaine des questions techniques, juridiques et qui ont trait à la sécurité, également concevoir ensemble des actions communes et assurer le développement continu de la langue portugaise dans le système des noms de domaine. Également, on s'occupe de .br au Guinée-Bissau, .pt et .ao. Voilà pour l'instant ceux qui ont signé et les membres de l'association. Mais nous espérons que d'autres membres vont se joindre à nous pour partager avec nous leurs expériences. Alors, pour entrer dans le détail de .ao de l'Angola, pour la gestion des domaines de premier niveau au Portugal, .pt. Nous avons également obtenu d'autres responsabilités. Nous aidons .ao aussi de l'Angola. Et à la fin 2015, il y avait 364 noms de domaines enregistrés sous ce .ao. Pour ce qui concerne le DNSSEC, nous avons organisé une formation d'une semaine sur le DNS, au cours de laquelle nous avons essayé de partager nos connaissances dans le domaine du DNS à Lisbonne, dans les bâtiments de notre association DNS.pt, afin d'améliorer le DNS, les connaissances sur le DNS et le DNSSEC. Nous avons organisé donc un atelier de travail avec 6 participants en tout, provenant de 2 entités différentes.
Prochaine diapo, s'il vous plaît. En ce qui concerne .cv pour Cap-Vert, en 2010, DNS.pt ont géré .cv en tant que serveur primaire. Nous remplissons donc ces rôles vis-à-vis de l'ANAC, l'Agence nationale des communications, et ils ont commencé à assumer le rôle eux-mêmes. Donc, dans la même année, nous avons mis en place un atelier de travail et à Cap-Vert, et des entités locales sont venues pour faire la promotion de leur domaine CC. Et en 2013, une fois de plus, nous avons fait donc une présentation et invité le personnel technique. Nous avons parlé de l'infrastructure .cv et nous avons essayé de les aider à configurer les ajustements nécessaires pour adopter le DNSSEC. Je pense qu'ils sont donc bien préparés pour adopter cela. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas encore fait. Ils sont plus confortables quand nous les aidons, donc ils essayent de s'organiser pour pouvoir venir au Portugal une fois de plus pour continuer leur déploiement. Et nous irons donc les aider. Je ne sais pas où nous irons les aider, je ne sais pas. Nous verrons. Nous avons aussi offert d'installer un serveur de façon à les assister à gérer leur propre CCTLD. Nous avons aussi aidés avec notre logiciel de façon à ce qu'ils puissent gérer le système de façon indépendante. Prochaine diapo. Nous parlons maintenant du point GW pour la Guinée-Bissau en juillet 2014. Notre ARN, qui est responsable pour gérer le point GW, l'enregistrement du point GW a donc été maintenant géré par la Guinée-Bissau. Donc, PT se préoccupe des opérations. Le DNS.PT s'occupe de la gestion technique et les opérations administratives et juridiques de point GW. Mais nous allons essayer de transférer ces rôles en l'entité elle-même, mais ne pourrons pas le faire avant de faire beaucoup de formation, une propre installation de l'infrastructure technique. Prochaine diapo, s'il vous plaît. On veut partager avec vous ces informations. Dans cette communauté, donc .gw, voilà une diapositive sur la délégation. Donc, au 4 mars 2016, nous en étions à 238 noms de domaine et nous pensons que cela a été causé parce que .pt a aidé pour conseiller ce nouveau CCTD avec leurs affaires. Et il y a eu aussi donc une alliance de 15 registres. En concerne le DNS5, en février 2015, depuis que nous gérons la zone, nous l'avons signé donc avec le DNS5. Nous devons encore soumettre les informations de ressources DS dans la zone racine, mais c'est juste une question de temps. Et en mai de la même année, une fois de plus, nous avons tenu un atelier de travail en Guinée-Bissau de façon à donner une grande vue d'ensemble de l'Internet, surtout sur les sujets du DNS et sur la cybersécurité et les affaires DNSSEC. Nous leur avons fait des présentations et nous avons eu 32 participants. C'est tout pour moi. J'espère que cela va vous aider. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait tellement de pays qui parlaient le portugais en Afrique. Dan, au micro. Prochaine présentation. C'est Marc. Prochain orateur. La prochaine personne qui va nous faire une présentation, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. C'est Dr. Eberhard Liss. Il est très connu dans cette communauté pour participer à la journée tech. Je vais vous dire quelque chose que personne ne sait. Son meilleur truc à l'ICANN, c'est de demander aux gens qu'est-ce qu'ils croient que son occupation, son profession est dans la journée autre que l'ICANN. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il gère un opérateur d'enregistre. Il est gynécologique. Il est gynécologue. Enfin, bon, il est est fantastique pour se préoccuper des problèmes de protection des femmes et des enfants et de façon à essayer de changer les lois pour que les femmes soient plus libres en Namibie. Il a vraiment un cœur, un très très bon cœur. Ça se voit pas, mais définitivement, il a bon cœur quelque part.
Please continue.
Marc au micro, oui, essayez de... S'il vous plaît, continuez, allez-y. Dan s'adresse aux gens qui rentrent dans la salle. Ah oui. Dr. Lys au micro. C'est à mon tour. Après, je disais, j'avais une profession. Et je disais que j'étais gynécologue dans la journée et j'étais obstétricien dans la soirée. Et maintenant, je ne fais plus, donc je dors beaucoup plus, en fait, hein, parce que je n'accouche plus de bébé. Mais cette profession m'avait donc appris beaucoup de choses. Passer sur la prochaine diapo. Donc, un patient n'est pas très préoccupé de combien de visites il va faire au docteur du moment qu'on règle son problème. Donc, je suis très critique sur beaucoup de choses. Je suis heureux de voir que beaucoup de pays adoptent le système et la bonne approche, il y a donc une meilleure approche, il y aurait peut-être une meilleure approche à utiliser pour l'avenir. De toute façon, je n'ai pas, me suis pas rendu compte, j'ai essayé de voir combien on dépensait d'argent pour faire les roadshows du DNSSEC. Le gérant des finances est habitué de recevoir mes emails maintenant. Les roadshows nous permettent de promouvoir l'adoption du DNSSEC. Si vous pouviez passer la prochaine diapo, comme vous le voyez, en 2013, vous avez donc la photo, le plan de l'Afrique sur la carte de l'Afrique sur l'écran, et maintenant vous voyez quand la classe de 2015. Donc, vous voyez, on a donc dépensé beaucoup de notre temps et on n'a pas dépensé à bon escient. Soit il y a des gens qui sont trop feignants pour faire le travail, mais si vous voyez que le travail n'est pas fait à la base, et s'ils ne peuvent pas voir quel est le travail qu'il y a à faire, sinon, ce n'est pas si difficile que ça pour autant. Vous voyez les résultats. C'est vraiment dommage que seulement deux pays sont opérationnels, et c'est la Tanzanie et la Namibie. Vous voyez, les autres ne sont même pas visibles sur la carte parce que ce sont des îles et que les îles ont des plateformes différentes. Donc, si la Guinée-Bissau, le CCTL de la Guinée-Bissau est sur la plateforme .pt, elle ne compte pas. C'est pas compliqué pourtant, mais on a du personnel, on envoie les gens à l'université pour qu'ils obtiennent des masters en informatique, mais ils ne sont même pas capables de faire ce travail. Alors, en ce moment, je vais demander aux gens de Point ZA de ne pas trop s'énerver encore. On va y arriver. C'était une blague. Il y a deux façons de faire les choses avec le DNSSEC. Le DNSSEC, c'est simple, mais c'est pas facile. Ce qu'on voulait faire, on voulait d'une façon demander à Thalys de nous donner les programmes pas d'une façon économe. On en a besoin de 3. Et je sais que on peut faire des mises à jour avec Thalys, on n'a pas besoin de les remplacer. Mais on doit les obtenir à des prix intéressants. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit voir si on peut faire quelque chose pour $20, disons. Soft Edge, c'est une réponse. Et Bind, c'est aussi, ça rendrait les choses plus simplement, mais on ne peut pas faire les $20 avec le Bind. Le problème, c'est que quand Bind est mis à jour, cela pose un problème. Cela ne peut pas être fait facilement. Si on pouvait seulement faire une mise à jour avec le manager de package, ce serait plus pratique. On pourrait faire les choses d'une façon plus rapide. Ouvrir le DNSSEC, c'est compliqué. C'est cela supporte Soft Edge, mais cela a besoin d'une série de données. Et OpenDNSSEC a l'habitude de s'arrêter, de ne plus fonctionner ou d'arrêter de signer sans vous le dire. Donc ce n'est pas... Il n'y a pas une façon simple de faire les choses. Passe à la prochaine diapo. Le OpenDNSSEC était inclus dans les systèmes de plusieurs CCTLD. Ce n'est pas facile pour retirer les bugs. Ce que je fais, je signe avec Soft Edge. Je dois éliminer le CopDen plusieurs fois par jour afin que cela recommence et resigne. Donc, c'est pas une bonne chose de faire, c'est pas une bonne manière de faire les choses. Quand j'écrivais cette présentation, je pensais que nous devrions, au lieu de gaspiller plus de l'argent pour voyager sur le roadshow du DNSSEC, utiliser cet argent pour voir ce qui fonctionne, comme la signature du DNSSEC courante, et soutenir un programme qu'on pourrait recommander. Ce serait bon de voir ce qui fonctionne et ensuite démontrer cela dans les roadshows. Donc voilà ce que le financement devrait nous apporter. Prochaine diapo. En attendant, André Zoubi, qui a parlé durant la journée technique lundi, nous a dit que le DNS qui va dépasser le monde entier pourrait parler au Soft Edge. Donc je vais essayer de parler avec eux pour voir si on peut trouver ce travail, ces informations pour qu'on puisse faire les mises à jour avec les managers de package. Et si ça marche, ça pourrait être une façon de trouver une solution pour augmenter la sécurité et ainsi on n'a pas besoin de dépenser autant d'argent. C'est une petite carte. Cette petite carte, ça coûte 20 euros. Vous pouvez l'acheter. Si vous achetez en Allemagne, vous en achetez 6 pour le prix de 5. C'est une petite puce qui fait la signature. Ça peut faire à peu près 5 signatures par seconde. Est-ce que je peux finir ma présentation, s'il vous plaît? Anthony Fan Covering, quelqu'un que je n'aime pas forcément beaucoup, il le sait. Il est devenu disponible. Il a du travail maintenant. Il n'a rien à faire. Il a mis sur son site qu'il avait été viré et il a dit que pour le J-Market, il y avait 5 sortes de registres. En ordre descendant, c'est l'approche du supermarché. Certains GTL essayent de vendre beaucoup de domaines à des profits énormes. Je ne sais pas si ça va marcher. Ça m'étonne. Ça m'étonnerait. Donc, ACAN aimerait que les opérateurs de registre soient seulement intéressés au niveau de la structure, de l'infrastructure, pardon. Ce qui fonctionne bien pour nous en tant que petit commerce, ça nous permet de garder les coûts bas et ainsi nous voulons avoir. Donc, nous demandons à avoir un nouveau taux. Et je pense que nous devrions avoir le meilleur de ces deux qui sont listés sur la diapo. C'est les fonctions techniques et pour les petits business. Si on doit payer des 1 000 euros pour une machine, on ne peut pas se le permettre. Soft Edge n'est pas encore prêt pour prime time. Il est donc très facile de faire un PSH pour mettre en place une façon sécure pour pousser la zone. Il pourrait ainsi signer de façon sécurisée. Et donc, nous faisons cela déjà pour les noms de deuxième niveau. Accepter les informations DNSSEC avec COCA Tool, qui est une version qui a commencé l'année dernière. Les informations DS, et Marc, on peut vous en parler. Moi, je ne viens pas pour vous montrer combien on a de clients. On n'a pratiquement aucun client qui connaissent. Si on va à la banque nous dit « Ah, oh, on a un HTTPS qui fonctionne pour vous », même s'ils n'ont pas renouvelé leur certificat. Moi, je peux vous dire qu'au 20 décembre cette année, vous serez en échec parce que votre certificat sera expiré. Le message à en retirer, c'est de construire et ils viendront vers vous. Si vous pouvez construire un système qui est relativement peu coûteux, éventuellement, quelqu'un va pouvoir s'en préoccuper. Nos gouvernements, quand on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas faire le DNSSEC tout de suite, avant qu'on puisse le commander de façon descendante, il est donc difficile de régler ce problème pour qu'ils signent. Si je dis à mes bureaux d'enregistrement qui sont des fournisseurs de connectivité, si je leur dis, à moins que je fais une validation, je vais vous donner un premium sur mon enregistrement ou je vais vous donner un rabais si vous le faites. Et si tout de suite, quand ça devient une histoire d'argent, ils le font tout de suite. Voilà, la fin de ma présentation. Je vous remercie.
Thank you very much. He really does have a heart in there somewhere.
Merci beaucoup, Marc au micro. Alors, on a encore 10 minutes si vous avez des questions à poser. Alors, une définition rapide. Si je regarde ce que sont les HSM, donc modules de haute sécurité, pour moi, il y a un soft HSM, c'est un logiciel conçu par Richard Markham en Suède, c'est ça? Nouvel intervenant au micro. Oui, ça fait partie du projet ouvert d'NSSEC. Et c'est Richard Belkrom qui s'occupe de la maintenance, de l'entretien de ce système. Marc au micro, oui, le HSM, dont parlait l'orateur précédent, c'est comme une carte de crédit avec une petite carte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont réellement peu onéreuses. Ces cartes, elles permettent une préconfiguration de beaucoup d'éléments. Et à l'autre bout de la chaîne, vous avez les autres HSM comme les Thalys, les Cypher Machines avec la signature de zone, etc. Donc voilà, de mon point de vue, trois types. Vous voulez préciser quelque chose, Dan? Non? Oui, j'allais également poser une question rapide à Alan. À Alain. Alors, 54 pays en Afrique. Combien de pays vous reste-t-il et combien de temps cela va prendre? Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on va chercher les gens et on se rend uniquement dans les pays où il y a des gens qui sont désireux de nous recevoir. On fait de la sensibilisation, on essaie de voir où sont les gens et on essaie de voir si ces gens sont disposés à organiser des événements. On ne se rend pas dans chacun des CCTLD. Hein. Donc c'est difficile de vous dire combien de gens ou de pays il nous reste. Ça dépend de la prédisposition des gens, s'ils sont prêts et s'ils sont désireux d'organiser un événement. Dan au micro, oui, c'était justement ma question. Donc s'il y a des pays ici représentés dans la salle qui aimeraient organiser le roadshow dans leur pays, et j'ai d'ailleurs eu de très bons retours de l'organisation de ces roadshows, comment ils doivent s'y prendre? Alain au micro, il y a deux manières de s'y prendre. S'adresser à moi ou s'adresser à Pierre ou aux gens du bureau de l'ICANN en Afrique ou parler aux gens du DNS pour l'Afrique, Richard Lang, etc. Donc vous avez plusieurs moyens d'arriver finalement à vos fins. Dan au micro, oui, je crois que c'est excellent la partie que vous avez dit par rapport à la récupération et à la reprise après un incident. Et moi, j'aimerais encourager tous les gens à participer à l'étude dont Marc parlait, parce qu'on a besoin de mesures, on a besoin davantage de données sur l'utilisation et tout ce genre de choses. Autre intervenante, oui, veuillez s'il vous plaît vous présenter, dire votre nom et d'où vous venez. Pour les gens qui sont à distance, moi, je vous connais pour la plupart, mais je ne vous connais pas tous. Et si vous avez un micro, Cathy, qui est ici debout, a un micro volant, donc assurez-vous de poser votre question dans le micro pour les gens qui nous suivent à distance. Et j'ai une question sur le chat. Dès que vous serez prêt, je pourrai la poser. Marc au micro, je ne vois pas d'autres questions. Vous voulez la lire maintenant? Attendez, Victoria. Victoria au micro, j'ai un commentaire. Herbert, je sais que vous avez cherché du soutien pour ces cartes de crédit, ces HSM, à condition que nous ayons les documents nécessaires, on pourra les rendre disponibles pour d'autres utilisateurs. C'est la manière dont ça fonctionne. Donc, si vous voulez faire une présentation à d'autres collègues utilisés par l'utilisation du HSM, je serais heureuse d'organiser un webinaire ou quelque chose de ce genre. Eberhard au micro, oui. Là, il y a un changement parce que j'ai eu une correspondante, un échange avec la personne chargée de la mise en œuvre ou le réalisateur et il m'a dit qu'il n'était pas intéressé. Vicky au micro, oui. En fait, il y a des opinions divergentes par rapport à ces HSM. Et il y a une grande différence entre la recommandation de solutions comme étant une solution cryptographique d'excellence pour les gens qui travaillent au DNSSEC. Je suis sûre qu'on peut parvenir à un consensus, surtout si vous avez une solution qui nous aide. Eberhard, excellente nouvelle. Je vais rester en contact avec vous pour voir ce qu'on peut faire. Marc au micro. Oui, je vois qu'on souhaite que Victoria et l'ISC soutiennent les HSM, les normes HSM fondées sur ces cartes. Alors, question à distance. Julie au micro. Merci Marc. Question de Marcus de Global Village. Est-ce que les registres ou opérateurs de registres africains utilisent l'extension EPP d'NSSEC ou est-ce qu'ils vont utiliser le point PT? Alors, je pense que cette question s'adresse à moi, dit la nouvelle intervenante. Il s'agit de Sarah Montero au micro. Oui, effectivement. Il n'y a pas encore d'extension EPP mise en œuvre pour l'instant. Donc, ils n'utilisent pas les mêmes techniques que pour le point PT parce qu'on n'essaie pas de reproduire ce que l'on fait et que les autres l'appliquent. On essaie simplement que les autres essaient de trouver leur propre système et qu'avec leurs propres connaissances et outils techniques, ils améliorent ce qu'ils ont et qu'ils soient capables de l'utiliser. Donc, pour l'instant, vous pouvez soumettre les informations concernant le DNSSEC par écrit et pour l'avenir, je ne sais pas, ils décideront eux-mêmes de ce qu'ils vont faire pour le point PT. Oui, Eberhard au micro. Alors, tout registre qui utilise le COCA Tools depuis mai ou juin 2015 peut accepter les enregistrements standards EPP parce que ça fonctionne pour tout bureau d'enregistrement habilité de l'ICANN ou accrédité de l'ICANN. Et nous avions eu un problème. Maintenant, ça a été réglé et ça fonctionne parfaitement bien. Marc au micro, y a-t-il une autre question? Rich? Oui, Rich du PCH au micro. Oui, je voulais revenir sur ce qu'a dit Eberhard dans sa présentation sur la signature de PCH. Il n'est pas nécessaire de s'adresser à d'autres services, mais vous pouvez le faire. Si si vous voulez des informations sur le DNS, DNSSEC, etc., n'hésitez pas à vous adresser à nous. Ross au micro, merci aux membres. Ross Mandy du ESSAC au micro. Merci à tous les membres du panel pour toutes ces présentations. Et je me réjouis de voir tous les progrès accomplis depuis les 5 dernières années. Hein. Ça a été énorme comme progrès. Et l'une des choses qui m'a particulièrement intéressée dans toutes ces présentations, c'est lorsque Eberhardt a dit que le gouvernement envisageait de rendre l'utilisation de DNSSEC obligatoire, qui en soi est un progrès extrêmement positif. Qu'un gouvernement envisage de faire cela, c'est extrêmement positif. Et j'ai deux questions. D'abord, est-ce qu'il y a d'autres gouvernements en Afrique qui sont en train d'envisager de prendre des mesures similaires, c'est-à-dire faire en sorte qu'une certaine partie de la communauté utilise de manière obligatoire le DNSSEC? Deuxièmement, et c'est une autre question, est-ce que les fonctions des bureaux d'enregistrement continuent de présenter des défis significatifs pour l'utilisation du DNSSEC d'une manière générale en Afrique? Eberhardt au micro. Les bureaux d'enregistrement peuvent les soumettre de deux manières, par IPP ou si vous utilisez les outils COCA Tools, par l'interface graphique. Mais il n'y a pas de demande. Si vous allez à une banque et vous leur demandez comment ça fonctionne, ils vont vous dire non, nous n'avons pas de certificat. Nous avons des certificats SSL, mais ils ne comprennent pas ce dont il s'agit. Vous pouvez leur expliquer un millier de fois, de la meilleure des manières, en étant aussi poli que ce soit. Vous pouvez être plus ou moins précis, mais ils ne comprennent pas. Et les banques, ça ne les intéresse tout simplement pas. Et je pense vraiment qu'il ne faut pas pousser la demande du côté des vendeurs. Nous, on offre ce service. Si ça les intéresse, très bien, sinon tant pis. Nous, on va dire à nos gouvernements qu'ils devraient faire en sorte que tout remplacement soit validé. Marc au micro, oui, j'ai vu que l'Afrinic utilise le site web SSR et je vois que Dan a une question. Dan au micro, oui, j'ai une question à l'attention de Sarah. D'abord, merci Sarah d'être venue et nous parler de Louis Nick, parce que moi je ne savais pas non plus qu'il y avait autant de pays lusophones en Afrique jusqu'à votre dernière présentation. Ensuite, lorsque vous parlez de GW, il y a des retards. Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Sarah au micro. Oui, en fait, d'abord il y a eu des retards techniques. Et lorsque l'on a soumis l'information, il faut qu'on obtienne l'approbation de tous. Et ce n'est pas très convivial, finalement, pour les personnes qui n'ont jamais utilisé ce système auparavant. Mais en fait, le problème, c'est que .pt, en 2015, a été transféré d'une ancienne infrastructure à une nouvelle infrastructure. Donc, il y aura des changements. Et ce qu'on essaie d'opérer tous ces changements en même temps et que les entités de direction et opérationnelles s'adaptent. Mais on espère qu'en 2016, on va pouvoir le faire. Marc au micro. Dernière question, CZ. Nouvel intervenant au micro. Oui, j'aimerais ajouter par rapport à ce qu'a dit Vicky que l'on est en train aussi de mettre en œuvre un support CS dans le DNS. Et dans ce cadre, on est en train de tester de nouveaux HSM. Donc, si vous avez des HSM que vous aimeriez ajouter dans nos produits, et si d'ailleurs vous pouvez nous offrir un meilleur accès au HSM, on pourra vous apporter ce soutien. parce que ça ne veut pas dire qu'il y a un support pour tous les HSM. Chaque HSM est différent. Marc au micro, oui. Merci beaucoup. Alors, résumé, 30 secondes par personne. On commence par Alain. Alain au micro. Oui, merci. J'aimerais voyager en business, mais ce n'est pas toujours possible pour se rendre au roadshow. Alors, une partie de ces roadshows, c'est justement d'offrir des ressources. Si vous voyez les sites web, vous trouverez des ressources. Vous verrez que ces roadshows ne consistent pas simplement à passer en revue l'aspect technique des choses. On a également besoin de faire participer la communauté pour que les gens ressentent le besoin de vous suivre. OK, les 30 secondes sont terminées, dit Marc. Sarah. Sarah, au micro. Je crois que le principal objectif est d'aider au déploiement du DNSSEC dans tous les pays et dans tous les CCTLD et GTLD. C'est ce qu'on essaie de faire. Et on partage toutes les connaissances et on essaie d'unir nos efforts pour essayer d'aider les uns et les autres à atteindre cet objectif. Marc au micro, merci beaucoup, Monsieur Lys. Monsieur Lys au micro, alors je vais avoir du mal à résumer en 29 secondes. Je n'en ai pas un précis en tête d'ailleurs. Alors en fait, c'est difficile hein, parce que on est paresseux, oui. Oui, j'ai pas l'air paresseux, mais je le suis. Hein. D'ailleurs, Marc l'est aussi. Le fait est que je ne pense pas que de faire cela de manière descendante, ça va être utile et créer une demande artificielle non plus. Donc on essaie de rendre les ressources disponibles, mais il faut non seulement essayer de convaincre les autres de le faire, mais il faut aussi faire en sorte que ces ressources soient disponibles dans la pratique. Marc au micro, merci beaucoup. Merci aux membres de ce panel. Excellente présentation. Et on vous applaudit. Julie au micro. Et merci aussi à Marc. Dan au micro. Oui, on espère que cette carte de l'Afrique sera un peu plus remplie la prochaine fois. Merci. Julie au micro. On est censé avoir une pause. Une pause de 15 minutes. Mais qu'est-ce que vous en pensez, dame, si on en profite pour récupérer le temps perdu? Dan au micro. Oui, excusez-moi, j'ai pas mon ordre du jour. D'ailleurs, si vous n'allez pas participer au déjeuner, laissez votre ticket déjeuner pour les autres. Oui, 15 minutes de pause café. Ensuite, Alain Aïna sur l'expérience switch-off de signature DNSSEC ouvert. Attendez, vous êtes déjà parti pour une pause. Pause rapide, dit Dan, pour être de retour aussi vite que possible. Donc, pause de 15 minutes. Oui, vous voulez entendre Alain à tout prix, hein? Clock.
Five minutes, folks. Get your drinks, get your stuff, come back. We want to get going.
Trois minutes.
Two minutes in the break. Start moving back to your seats, please. So let.
Dan, au micro, comme Ross l'a dit, nous devons revenir pour travailler. Merci. Si vous êtes assis sur des chaises autour de la salle et que vous voulez vous asseoir à la table quand il y a des sièges de disponibles, n'hésitez pas.
So, come on.
Venez, revenez vers nous. Il nous reste quelques minutes, mais revenez. Si vous voyez donc une place de libre à la table, si quelqu'un veut même s'asseoir à côté de moi. Est-ce qu'on est prêt, Cathy? Tu es prête? Oui. Ça va? Donc, si ça va, je voudrais la personne qui va parler, qui nous a parlé tout à l'heure, Alain d'ailleurs, et je serai le médiateur pour les questions. Donc, s'il y en a, n'hésitez pas. Voilà donc Alain au micro. Alain Yana d'Afrique. Je voulais juste partager les informations du DSEC depuis que nous sommes passés de l'Afrique. Maintenant, je suis Wakren. J'étais donc Afrinique auparavant. Nous avons fait des changements. Ce changement, ce basculement a été fait à l'Afrinique. Afrinique était le RIR pour le V4 et l'espace V4-V6. Afrinique gérait 9 zones. Non, 6 V4 et 3 V6. Afrinique a fait le DNSSEC depuis 2012. On utilisait le DNSSEC ouvert et nous avons dû changer et passer à, comme vous allez le voir, le nouveau DNSSEC, comme vous le voyez sur l'écran. Vous allez pouvoir ainsi voir ce dont je parle. Regardez la diapositive. Donc, dans le contexte, Afrinique, on sait, utilise OpenDNSSEC pour signer les 9 zones avec les clés en soft HSM. L'algorithme, c'est RSASHA256. L'OpenDNSSEC qu'on utilisait à l'époque s'appelait SQLite Database. Donc, sur le chemin, nous avons trouvé quelques problèmes de signature de zone. Donc, nous avons des problèmes de phrases, disons. Donc, ça a causé des délais. Ce que l'on a fait pour résoudre le problème, nous avons fait des travaux, si vous voulez, de changement, de rechargement, parce que toutes les heures, il fallait resigner pour redémarrer la machine, si vous voulez. Donc, nous avons fait du travail afin de pouvoir régler le problème. Il fallait donc aller vers un nouveau système de signature avec OpenDNSSEC. On a changé les bases de données. Cela nous a permis d'ajouter plus de zones parce que Afrinique aussi gère le DNS normal et les noms pour le continent. Et ainsi, nous planifions aussi de signer d'autres membres. Nous avons décidé ainsi de passer au SQLite pour la nouvelle version de Soft HSM avec les mêmes algorithmes et les mêmes politiques de signature. Notre stratégie, parce que nous gardons les clés au sein du Soft HSM, il n'y avait donc plus de nouveaux démarrages, si vous voulez, nos exportations de clés. Il fallait garder l'état de validation dans toutes les zones signées tout le temps. Quand on a décidé de faire cela, on a dit qu'on ne pouvait pas faire de nouveaux départs, de nouveaux démarrages, parce que nous avions commencé avec ce plan et nous avions déjà un membre qui avait des zones signées et nous devons garder cet état, si vous voulez, de validation toujours ouvert. Donc, nous avons migré avec un roulement de clés. Voilà, donc l'architecture sur l'écran. D'un côté, vous voyez la façon dont on signait avant et la façon dont on signe aujourd'hui. Nous, comme vous voyez sur l'écran, il y a deux zones. Nous sommes passés au master public et nous avons maintenant des serveurs secondaires. C'est ce que, comme vous le voyez à l'écran, ce que l'on a fait. Comme vous voyez, bien sûr, nous pré-publions le DNS key, les clés DNS et les doubles DS. Ça, vous pouvez prendre la clé de ZSK et des KSK, des nouveaux signatures, et nous les pré-publions et nous mettons le DS de la nouvelle clé à ip6.apa. Nous exportons les clés publiques des autres signeurs aux nouveaux signeurs afin de prépublier le DNS key, les clés DNS et les doubles signatures. Donc, nous commençons par l'ancien signeur et nous passons au nouveau signeur. Donc, voilà, c'était comment on faisait les choses avant le changement, avant le basculement. Et maintenant, comme vous le voyez sur l'écran, nous avons le DS, les clés qui étaient utilisées pour saigner avant et après. Ensuite, passons à la prochaine diapo. Après, donc, le changement une fois de plus, c'est ce que nous faisons maintenant. Vous voyez donc les deux clés, les deux NS qui sont utilisées pour saigner, qui sont au-dessus. Vous avez donc maintenant deux clés avec ce système. Avant, le système marchait avec DSK. Ce sont les deux clés que vous voyez au-dessus. Nous avons les vieux KSK, les KSK. Et comme vous le voyez sur l'écran, la dynamique a changé. Comme vous voyez, maintenant, nous avons retiré les anciennes clés. Et maintenant, donc, la table finale était donc de retirer le DS des vieilles clés et de passer au ARPA.zone. Et donc, comme vous le voyez, cela demandait beaucoup de considération, beaucoup de planning. Et donc, il fallait qu'on suive une certaine chronologie, il fallait prendre son temps, il fallait vraiment gérer les clés, l'état des clés, et etc., etc. Et il fallait vraiment gérer ce changement parce qu'on voulait garder cet état de validation à temps pour qu'il n'y ait pas de temps où il n'y avait pas possible de faire une validation. Il fallait donc faire très attention. Nous n'avons pas eu de problème, il n'y a pas eu de crash, pas d'alarme. Donc, c'était une bonne expérience et je pense que cela pourrait s'appliquer aussi si vous passez de bind signing à l'open DSEC ou dans l'un sens ou dans un autre, la même chose se produira. Il suffit de gérer la clé pour que la chose fonctionne bien. Donc, si vous passez de bind et open, et même à l'inverse, la clé était peut-être nous allons passer à ne pas avoir de clé privée. Peut-être une des options serait de construire une nouvelle et avoir une clé dans le DSSM. La prochaine fois, même algorithme, except que nous prépublierons le KSK. Nous l'avons fait dans le DS, mais ce n'était vraiment pas nécessaire. puisque nous n'avons pas pu le faire avec le WDS. Mais nous avons décidé de pré-publier le cas SK pour éviter des problèmes. Mais la prochaine fois, nous devrions le faire en pré-publiant le cas SK ou pré-publiant le SK et faire .ds. Merci. C'était ma dernière diapo. Dame, pouvez-vous nous dire pourquoi vous ne pouvez pas publier le KSK ou la clé de signature clé? Parce qu'en faisant le .ds, dit Alain, vous aurez ainsi le DS de la nouvelle clé qui sera déjà publiée dans le bind. Donc, il n'y aura pas besoin de pré-publier
la clé de signature de clé.
Parce que quand vous avez... Si vous voulez, c'est comme... Si on faisait un roulement de clé de signature de clé, si vous le faites, vous pouvez faire point signé ou point DS. Nous, on a fait point DS et point signé, si vous voulez, en pré-publiant la clé de signature de clé. Dan, au micro. Oui, nous avons des questions. Il y a une question de Robert. Robert et Benon sont dans la queue pour poser une question. S'il y a quelqu'un d'autre, laissez-moi savoir. Robert, de PCH. Ben et moi, nous sommes d'accord que vous n'avez peut-être pas raison. Mais bon, à propos du pré-publication, quand on pré-publie la clé de signature de clé, vous avez donc un ensemble de signatures sur la clé DNS, sur les informations de clé qui pourraient être en cache quelque part. Et là, vous risquez d'avoir des problèmes. Mais si personne s'en est rendu compte, c'est bien. Ma question... est en référence de cela. Quand vous avez fait le roulement de clé, est-ce que vous avez trouvé des gens qui avaient des problèmes de meilleure pratique DNSSEC sur comment utiliser la chronologie, etc.? Est-ce qu'il y avait une façon de faire le... Est-ce que vous avez démontré comment faire le DNSSEC? Est-ce que vous aviez des documents sur le fait qu'on puisse... Comment on peut faire réaliser le développement? Est-ce que vous avez eu des réponses sur cette réalisation? Alain, au micro. Gérer le temps qu'on avait pour déployer le DNSSEC. Oui, dans ce cas-là, nous avons observé les RFC et certaines documentations qui étaient publiées sur le sujet... qui avait été publié par des gens qui l'avaient déjà fait. Oui, nous devons garder cette chaîne de confiance, si vous voulez. Donc, nous avons vraiment dû observer nos politiques de signature, la chronologie, de concevoir un système qui correspondait à nos besoins. Donc, nous avons utilisé les meilleures pratiques du RFC. Ben Hofreiner, au micro, est donc un des signeurs importants du DNSSEC. Merci, Alain, d'avoir partagé cela avec nous. C'est toujours bon d'entendre toutes les bonnes choses, les mauvaises choses, ce genre d'informations de retour que nous pouvons utiliser, et ainsi nous pouvons améliorer les choses. Quand il s'agit de la chronologie, disons, de la... Quelles sont vos restrictions? Quelles sont vos politiques pour... Est-ce que vous avez OpenDNSSEC 2.0 va arriver, elle va être publiée. Est-ce que vous avez des façons plus efficaces de démontrer vos politiques? Alain, oui, comme je vous l'ai dit sur la deuxième diapo que j'ai montrée, nous avons publié des informations sur le blog Afrinic. Je vous avais donné deux liens et vous pouvez cliquer sur un de ces liens pour et ainsi vous pouvez obtenir les informations. Et il y a un lien pour un blog aussi. Donc, si vous voulez obtenir plus d'informations, allez sur ces liens. Jeff Houston de Appinic. Il y a 60, Le RA6780 est le document que vous cherchez. Si vous regardez ce 6780, vous verrez qu'il y a une analyse sur les manières de faire ce roulement de clé. La double signature où il y a les deux clés sont introduites dans la zone, où cela crée des ça va augmenter la réponse des DNS, où cela pourra causer des problèmes. Vous pouvez faire ça une étape où il n'y a pas de double signature, mais bon, cela amènerait des compromis. C'est pas facile à faire. 6780 écrit pour les gens qui comprennent le DNSSEC. Mais si vous allez commencer à rouler, à faire des roulements de clés, vous devez comprendre le DNSSEC, n'est-ce pas? Donc le 6780, c'est bien une lecture obligatoire afin de pouvoir comprendre le RFC. Alain, merci Jeff. Dan, y a-t-il d'autres questions à ce sujet? Voir ce micro. Merci, Dan. Merci, Alain. Très, très utile, cette présentation. Deux questions. Dans le panel de la région Afrique, il y a eu beaucoup de discussions au sujet de la lenteur pour la validation et l'utilisation de la zone de signature signée. J'étais curieux. Avez-vous établi une manière de mesurer ou de collectionner, de collecter des données, pour les utilisateurs finaux? Est-ce que vous avez examiné s'il y avait des cassures ou des ralentissements ou des problèmes avec la taille des binds un petit peu dans des domaines prédominants où ces zones sont utilisées? Pouvez-vous nous expliquer ce que vous avez fait dans ce domaine, Alain? Vous parlez de ce roulement de quai précis ou en général, s'il y avait des mesures que vous avez récoltées? Alain, durant ce roulement de clé, nous avons utilisé le DNS la plupart du temps, mais aussi des résolveurs comme moi, par exemple. J'ai fait ça à distance. J'étais au Togo. Ensuite, je suivais ça en utilisant mon résolveur au Togo. Et puis, l'autre personne était en Afrique du Sud. Et nous avons quelqu'un aussi à l'île Maurice. Donc, c'est un peu comme ça que nous suivons ces roulements de clés pour nous assurer que rien ne se casse, que la chaîne ne soit pas cassée. Ross, merci. Vous allez certainement entendre ça de Dan tout à l'heure aussi. Mesurer, collectionner les données. Nous n'en avons pas assez. Nous voulons en avoir plus. Alain, oui, nous en avons, bien sûr. Dan, je voudrais aussi souligner cela encore une fois. Je vais parler comme Julie. Si vous pouvez nous donner votre nom quand vous parlez au micro. La prochaine personne au micro. Ah, je n'ai plus de... On n'entend rien, là. Excusez-moi. À Wafa, de Tunisie. Je voulais faire un commentaire à propos de ce qu'Alain a fait. Alain, merci pour votre support, le support de Afrinic. Aujourd'hui, la Tunisie a signé. Donc, nous devons faire beaucoup plus de travail. Nous allons passer aux prochaines étapes. Nous devons signer toutes les zones et nous avons beaucoup de travail à faire avec les opérateurs, les bureaux d'enregistrement. Vous êtes le meilleur formateur des NSEC que j'ai jamais vu. Alain, est-ce que je peux faire un commentaire sur le commentaire? Elle travaille pour ATI. ATI, si vous regardez les statistiques sur les zones d'Afrinic, vous verrez que ATI et Marcus King sont les deux personnes qui ont signé, qui ont poussé le DS et m'ont vraiment aidé à démontrer au PDG d'Afrinic que j'étais capable de faire les choses. Dan, au micro, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Je voudrais remercier Alain pour nous apporter ce genre d'exemple. On a souvent demandé des choses comme ça pour la prochaine session du ICANN 56. On aime bien ce genre d'études. On aime voir comment les gens ont fait les choses, ce qu'ils feraient pour améliorer leur système, comment cela fonctionne pour eux. Et si vous faites des choses comme ça, que vous voulez faire des commentaires, vous voulez parler, comme vous voyez, on ne vous pose pas des questions très, très difficiles. Certains de nous, peut-être, vont avoir des questions plus pointues, mais nous apprécions vraiment votre présentation, Alain. Merci.
Next up, we have...
Ensuite, nous avons un nouveau présentateur. C'est un plaisir de le recevoir. Beaucoup d'entre vous savent que Cloudflare a fait beaucoup de remous ces dernières années en annonçant qu'ils allaient permettre la signature des millions de domaines qui existaient. Et Oliver, qui est souvent là, en tout cas, il est déjà venu nous parler de ce qu'ils allaient faire et des pas qu'ils allaient suivre. Et Jacques, qui était à côté de moi, il n'est plus là. Bon, il est parti aussi. Donc, les deux sont partis. Ont travaillé tous deux là-dessus. Et Danny Grant est ici avec nous pour nous parler de ce que fait Cloudflare et comment faire le DNSSEC à grande échelle pour des millions de domaines. Bonjour à tous. Danny, je suis l'une des managers du DNS, donc manager de produits pour DNS Cloudflare. Cloudflare s'occupe de 4 millions de domaines. Chaque jour, nous répondons à plus de 40 milliards de demandes par jour. Et nous gérons le DNS pour tout domaine de manière gratuite. Et ça a été un défi. Il a fallu qu'on soit très créatif dans la mise en œuvre. Et j'aimerais partager avec vous les mesures qu'on a prises pour que le DNSSEC soit une réalité. Alors, comment est-ce qu'on a choisi ces mesures? Qu'avons-nous fait en cas de réponse négative et qu'avons-nous appris par rapport au protocole de réponse au bureau d'enregistrement? Cloudflare atténue les attaques pour 4 millions de paquets par seconde pour des attaques sur la zone racine, donc un EDS par taille. Une fois que ce site est attaqué, on répète les requêtes avec des petites requêtes, mais des grandes réponses. Donc, il y a des adresses qui sont capturées et des attaques qui sont faites ainsi. Revenez en arrière, s'il vous plaît. Les zones avec le DNSSEC, parce que ces requêtes sont petites, en général, les réponses sont bonnes. Le mois dernier, nous avons publié un rapport sur la sécurité, sur les problèmes qui sont rencontrés sur leur domaine et les réponses qui sont faites à cette attaque. Imaginez que tous les domaines puissent être utilisés pour ce type de simplification, alors on deviendrait une cible nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle nous avons pris les mesures de précaution nécessaires pour nous assurer que chaque réponse DNS que l'on envoie s'intègre dans un paquet qui est inférieur à 512 bits. Ce que l'on fait, c'est utiliser l'algorithme de signature de courbe elliptique. Et il y a un mathématicien hollandais qui est connu, qui a parlé de l'énergie. Il a pris l'énergie nécessaire pour faire ce genre de choses et à la comparer à l'énergie pour bouillir une cuillère à café d'eau. Ensuite, comment comparer cette énergie à l'eau nécessaire sur la Terre? Donc, pour une clé ECDSA, combien d'eau nécessaire pour bouillir toute l'eau de la Terre? Ça nous permet d'utiliser des clés plus petites avec une plus grande sécurité. Donc, on a utilisé 228 bits de clés RSA contre 228 bits de clés ECDSA. Là, vous pouvez voir ce qui se produit pour une taille paquet. Autre avantage de l'ECDSA, c'est que c'est rapide. On génère 50 millions de signatures par jour, donc ça nous intéresse beaucoup. Nous pensions que le CDSA était rapide, mais lorsque les ingénieurs ont mis en œuvre ce système, ils ont vu une augmentation 21 fois plus élevée de la vitesse. Et maintenant, Cloudflare, ça prend maintenant 0,0001 seconde pour signer l'enregistrement DNS. Alors, réponse négative. Il y a deux problèmes vis-à-vis de ces réponses négatives. D'abord, toute requête pour renvoyer le nom pour Cloudflare, c'est cher. Et il y a des informations par rapport à la zone. Deuxième réponse, il y a deux enregistrements et deux réponses consécutives pour les noms qui manquent. Donc, je vais parler des prochains noms, un petit peu d'historique par rapport à notre DNS. Cloudflare utilise un serveur DNS qu'on appelle RRDNS qui représente RRDNS. C'est un système pour Cloudflare et pour les ingénieurs qui travaillent sur ce projet. Apparemment, je vais trop vite. Ce qui est unique par rapport à notre DNS, c'est qu'il n'y a pas de concept de fichier zone. Dans nos micros, écoutez, j'ai le même problème que vous, hein, je parle trop vite. Je m'emballe dès que je parle. Donc, les gens me disent, Dan, on se calme, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. On m'a dit d'aller plus vite, reprends l'oratrice. Non. Bien. Alors, notre DNS, ce qui est unique par rapport à notre serveur DNS, c'est que nous n'avons pas de concept de fichier zone. Ce que l'on a, c'est une base de données secrète qui est plate. Et lorsque nous recevons une requête DNS pour l'enregistrement, on va dans la base de données et on prend la donnée dont on a besoin. Autre aspect unique de notre DNS, c'est que beaucoup de notre logique commerciale est gérée par le DNS. Cloudflare génère de manière dynamique ses réponses. Donc, on ne sait pas toujours comment on doit répondre avant de faire cette réponse. Autre. L'oratrice se reprend. En général, il faut renvoyer le nom précédent et le nom prochain. Donc là, il faudrait demander à la base de données de faire une recherche aléatoire. Et avec nos réponses dynamiques, ce serait tellement difficile pour nous de savoir ce que seraient les noms précédents et prochains. Sans ces contributions. Deuxième problème par rapport à ces noms, c'est que ça expose les noms qui existent dans la zone. La solution à cela, c'est NSSEC3. Il y a une proposition par rapport à ce problème de nom, c'est le RFC 4470 par rapport aux white lies, donc mensonges. Petit mensonge. On essaie de trouver quelque chose qui existait juste avant que disparaissent les noms. Donc ça nous aide parce que ça empêche le zone walking et les recherches extra base de données. À Cloudflare, on a décidé de prendre des mesures. Et nous, ce qu'on fait plutôt que des petits mensonges, ce sont des black lies en anglais, donc des gros mensonges. Une fois que ce nom existe, mais pas du type demandé, on dit, voilà, tous les types existent, mais pas le type que vous demandez précisément. Donc, si vous demandez à texter, on dit, oui, c'est pas de chance, mais on a tous les types, mais pas le type texté. Ensuite, on demande à MX. Écoutez, vous êtes encore à côté de la plaque. Nous avons tous les types textés, mais pas MX. Et ça, c'est ce qui se produit du côté de la taille des paquets. Nos réponses négatives sont de 300 bits. pour les réponses négatives et ICANN.org, IETF.org, etc. C'est plus de 1000 bits. Donc la base de données regarde encore ce qui se passe et là, il y a des réponses négatives aléatoires. C'est vraiment difficile pour nous. Ensuite, au-delà des défis techniques du DNSSEC, une grande préoccupation pour le déploiement du DNSSEC à grande échelle, ce sont les coûts que cela représente. Pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas demander le déploiement du DNSSEC pour les opérateurs de registre et bureaux d'enregistrement? Je veux vous montrer l'une des choses que les bureaux d'enregistrement. L'oratrice se reprend. Voilà ce qui est intéressant ici. Souvent, lorsque les utilisateurs s'adressent au bureau d'enregistrement, ils s'en prennent aux équipes de soutien qui n'ont jamais entendu parler du DNSSEC ou leur donnent des mauvaises informations. Donc, ce que j'aimerais vous montrer, c'est vous montrer ce type d'informations erronées qu'on donne aux utilisateurs. Ce premier exemple, c'est d'un grand bureau d'enregistrement. Et il y a une confusion ici sur celui qui peut ajouter le DS. Le bureau d'enregistrement dit à notre utilisateur, afin de permettre au DNSSEC de fonctionner, le nom de domaine doit donner au bureau d'enregistrement la gestion du DNS. Les changements n'ont pas été finalisés et cette requête a été fermée. Bien entendu, ça, c'est pas correct. Ils peuvent ajouter le DNS, même si la requête n'a pas été on n'a pas répondu à la requête. Autre exemple, j'ai parlé à l'équipe de soutien du bureau d'enregistrement et ils m'ont dit qu'il fallait m'adresser à vous pour l'enregistrement DS. Là encore, ça n'est pas correct. Mais voici mon exemple préféré. Ça, c'est un chat avec le bureau d'enregistrement qui dit « L'option DNSSEC n'est pas encore opérationnelle. Nous ne fournissons toujours pas de soutien pour cela. » Et la réponse, DNSSEC active, DNSSEC est-il vraiment actif? La réponse du soutien du bureau d'enregistrement, exactement. Bon. Un client a même reçu un script. Et il y a également des bons exemples. Parfois, il y a un soutien supplémentaire pour le DNSSEC depuis qu'on l'a lancé. Il y a même une promotion du DNSSEC avec des promotions sur la signature des noms de domaine. Et ça, c'est un problème d'efficacité. Ça, c'est quelque chose qui devrait être automatique. Nous, à Cloudflare, on aimerait vraiment pouvoir envoyer ces enregistrements DNS de manière automatique. Mais les règles ICANN sont très strictes par rapport au type d'organisation peuvent s'adresser à tel ou tel type d'organisation. Donc, on essaie de parler aux opérateurs de registre, mais Cloudflare ne peut pas le faire. Vous voyez ici à droite Sira. Nous avons eu élaborer un projet pour permettre aux opérateurs DNS de passer un accord avec les bureaux d'enregistrement, etc., pour envoyer un DNS de manière automatique pour plus de 300 domaines, noms de domaines. Y a-t-il des questions dans nos micros? Oui, je suis sûre qu'il y en aura. Peut-être des questions de la part des interprètes. Oui, je vois qu'il y a toute une série de questions sur le chat. Peut-être Dimitri d'abord. Dimitri au micro, oui, un commentaire. Alors, par rapport à la mise en œuvre, il y a un coût. Mais, deuxième commentaire, il y a une chose supplémentaire, d'ailleurs je l'ai à l'écran. Vous ne pouvez pas le voir puisque je l'ai sur mon écran.
Avec ce type de base de données, on a 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je crois que c'était il y a 2 ans. Et la mise en œuvre était encore en suspens pour une raison en particulier. Dan, au micro, attendez la réunion de cet après-midi, vous aurez une réponse à cela. Dan, au micro, oui, une question à distance. Oui. Je vais rappeler à tout le monde ici de dire votre nom et au nom de qui vous parlez. Alors, question de Marcus de Global Village. Il dit, je comprends que les algorithmes de courbe elliptique sont sensibles aux attaques quantum. Est-ce que vous pensez que cela est un problème ? Nouvelle intervenante, si ça est un problème, si les ordinateurs quantum sont appelés à être une réalité. Dans nos micros, oui, si on en avait une pour la mettre à l'essai. Il y a une séance cet après-midi qui va parler justement de cela, des courbes elliptiques. Oui, 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 effectivement. On a une séance là-dessus cet après-midi. Alors, je vois qu'il y a Marc, Robert, Lars qui souhaitent intervenir. Nouvel intervenant au micro. Merci. Ce qui m'a intéressé, c'est les gros mensonges dont vous avez parlé. Alors, si vous mentez en laissant de côté le type d'enregistrement ou de record qui est demandé, toutes ces informations sont cachées. Nouvelle intervenante au milieu. Oui, c'est la raison pour laquelle on a autant de choses en cachées. Oui, parce que ces informations pourraient avoir changé avec le temps. Lars au micro. Oui, 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 c'est cohérent. Marc Algans au micro. Oui, j'adore ce terme de gros mensonge. Alors, le cas de figure où vous avez mis cela dans une zone et que la réponse a été oui, ce n'est pas. Ça, c'est parce que ce n'était pas signé. C'est réellement ce qui se passe. Dani au micro. Oui, c'est intéressant. Je crois que dans le meilleur des cas, vous avez un DS qui se propage au fichier parent et tout est signé. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Robert ? Robert, du PCH au micro. Ce que j'ai aimé, c'est que vous avez utilisé la courbe elliptique parce que personne d'autre ne le fait. Est-ce que vous avez une idée pour savoir si d'autres ont des problèmes de validation ? Dan au micro, je vous le répète, restez pour la réponse à cela. Dani au micro, lorsqu'on a commencé à élaborer cet algorithme, il y en avait un qui n'avait pas ce support. Mais grâce au DNS, on a un support supplémentaire. Robert, oui, par rapport aux gros mensonges, vous auriez peut-être dû parler de mensonges insinués. Dani au micro, oui, on a une personne dans nos bureaux que ça intéresserait beaucoup. Question à distance, Julie au micro, d'Antoine Verschuren. En fait, il pense que c'est un commentaire, mais c'est une question. Il dit, les opérateurs DNS qui ne peuvent pas parler aux opérateurs de registre sur des questions techniques est une erreur au sein du modèle de l'ICANN. Que pouvons-nous faire pour convaincre la communauté ICANN de changer le modèle pour augmenter la sécurité et la stabilité ? Dani au micro, oui, nous sommes d'accord. Pour répondre à cette question, qu'est-ce qui est fait ? C'est donner la preuve que ce concept marche. Donc voilà, c'est ça ce qu'il faut faire, démontrer que cela marche. Oliver de Cloudflare au micro.
Oui, par rapport à ce concept de CCTLD, on sera heureux de travailler avec tous les CCTLD pour démontrer que cela fonctionne bien. Donc, n'hésitez pas à nous parler à l'issue de cette réunion ou envoyez-nous un mail. Oui, bonjour, je suis de .dk. Alors, je suis venue à Dublin à votre réunion. Vous pouvez nous parler, donc, hein, c'est ça? Et je travaille actuellement sur un nouveau document, donc surtout ne quittez pas la salle. Oui, nous avons un micro volant, dit Julie. Dan au micro, Jeff, non? Pas de questions? D'autres personnes dans la salle?
Dan York, merci Dani, c'était vraiment fascinant. Nous sommes un fan de Cloudflare à beaucoup de niveaux, surtout pour qu'il y ait plus de CDN et puis aussi pour la pousse sur la courbe elliptique. Donc, je vous remercie pour votre présentation. Merci beaucoup. Maintenant, nous avons fait quelque chose qui est intéressant. Peut-être parce que c'est la vitesse avec laquelle Dani a parlé. Nous sommes 10 minutes en avance. C'est très bien puisque nous avons... ça va prendre beaucoup de temps pour aller à l'endroit où on mange. Non, ils s'attendent à ce qu'on vienne à midi. Donc, je dois vous dire, dit Julie, que s'il y avait... de la nourriture qui arrivait dans cette salle tout à l'heure, comme vous l'avez vu. En fait, cette nourriture était pour une autre salle. Ils se sont trompés. Donc, nous allons définitivement aller à Gondola, je crois. Et c'est vraiment un endroit extraordinaire pour déjeuner. Grand Bleu, pardon. Excusez-moi. La salle s'appelle Grand Bleu. Dan York. Oui. Alors... Vous allez donc avoir cette expérience de cette nouvelle chose. Il y a des papiers, des fiches qui sont distribuées. Tout le monde a ce feuille de papier. Vous allez certainement avoir un papier. Vous savez, il y a une conception qui s'appelle les stylos. Combien ça vous a pris pour voir qu'il y avait un sac, le stylo qui était dans le sac de la canne avait aussi une petite lumière. Vous avez dit, ah, c'est un crayon, mais non, mais il y a aussi une petite lumière dessus, c'est génial. Voilà, donc, ce que vous allez faire, nous allons nous amuser un peu. Et pour les gens qui sont nouveaux, c'est le quiz DNSSEC. On appelle ça le quiz du DNSSEC, mais ça a à voir aussi avec le DNS. Vous avez donc une feuille de papier devant vous. Et ce que vous allez faire, et la raison pour laquelle il y a des noms sur les fiches, c'est que nous ne voulons pas que les gens trichent. Nous voulons que vous remplissiez le quiz et que vous passiez la fiche à la personne qui est à côté de vous afin qu'elle puisse corriger. Non, on veut finir ça pour qu'on puisse aller déjeuner. Allons-y. Donc, ces questions ne sont pas mes questions. Surtout, ne pensez pas que ce soit mes questions. Roy Ahrens de Nominate. Non! Je ne devais pas le dire. Roy Ahrens de Lycan, pardon. Roy était un employé de Nominate pendant très longtemps avant de venir ici. Donc, depuis quelque temps, il est passé à Lycan. Donc, voilà. De toute façon, et Paul Rodus aussi en a écrit certaines. Enfin, d'autres personnes ont participé à ces questions. Donc, il y aura une question sur l'écran. Vous y répondez. Je vous dis que dans plusieurs cas, il y aura plusieurs réponses correctes et après nous pourrons en discuter. Au cas où il y a conflit, ce sera moi qui aurai raison de toute façon. Voilà. Vous pouvez utiliser, donc vous devez mettre vos noms sur le papier et tout ça. Bon, voilà, ce qui est à l'écran, on l'a déjà fait. Il n'y aura pas de points pour les mauvaises réponses. Quel TLD ne déploie pas le DNSSEC? Est-ce que c'est A, E, C, B, M, A, C, T, V, D, M, X, pardon. Vous pouvez inscrire votre réponse sur le papier que vous avez devant vous. Vous répondez A, B, C, D. Bah, oui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le niveau de question que nous allons avoir. Dr. Lees, pour dire ce que Clinton avait dit, qu'est-ce que ça veut dire le déploiement de DNSSEC? Dan, ce que je veux dire, c'est quel est celui qui n'est pas signé? Prochaine question. Qu'est-ce que TPC et TPC.int veulent dire? Est-ce que c'est le centre de politique de transition de politique, le comité de programme de technique, le câble transpacifique ou la compagnie de téléphone? Ça dit pas DNSSEC, ça dit... Je vous aide, si vous voulez, si vous n'avez pas ces questions, aidez-nous pour les prochaines. Si vous n'avez aucune idée, quel domaine INT n'existe pas? IPv4.int, IP6.int, Eurofish.int, donc, ou CTO.int, INT. Je ne sais pas où est-ce que Roy trouve ces questions. Voilà une question plus facile. Qu'est-ce que le DO bit veut dire dans les requêtes, dans la question DNSSEC? DNS, est-ce que ça veut dire DNSSEC off, DNSSEC on, DNSSEC out ou DNSSEC OK? Donc, qu'est-ce que DO veut dire? On ne va pas se disputer à propos de ces questions. Retournez vers votre RFC. Qu'est-ce que 257 indique dans les infos DNSK? Zone qui, donc, les zones et Secure Entry Point, comme vous le voyez à l'écran, DNSSEC, zone de signature de clé, algorithme 250, RSA NSEC3, SHA1 ou CCLV2. Ce sont des chiffres romains, bien sûr. La dernière réponse, CCLVII. Numéro 6, quels sont les algorithmes valides, les algorithmes NSEC3H, SHA1, SHA256, SHA384 ou GhostR34.11-94. Rappelez-vous qu'il puisse y avoir des réponses multiples. Roy, si vous m'écoutez... Qu'est-ce que CD bit veut dire dans les demandes DNS? Ça veut dire compact disque, disque pontac, B, check-in disable, CD pour outils cryptographiques ou CD pour change directory, ce qui veut dire que changer de liste de distribution. Moi, je sais que si je faisais ce quiz, je ne suis pas trop sûre de quel serait mon résultat. Mais moi, j'ai les réponses de toute façon. J'ai quelques réponses. J'ai les réponses de Roy. Qu'est-ce que KSK veut dire? Est-ce que c'est clé, signé clé? Donc, la kill switch key, key switch key ou kappa, sigma, kappa. Vous avez tous les choix à l'écran. Et on dirait que dans la question, Roy n'a pas mentionné qu'est-ce que ça veut dire dans le DNSSEC. Et pourtant, c'est le quiz DNSSEC. Alors, prêt pour la prochaine. Combien d'adresses de serveurs racines y a-t-il? 12, choix B, 13, choix C, 24, choix D, 26. « Je vois des gens qui regardent autour d'eux. Combien donc y a-t-il d'adresses différentes de serveurs racines? Pas combien il y a de nœuds, mais combien d'adresses serveurs racines? On ne regarde pas sur son ordi. Non, non, non. Les ordi devraient être fermés. On n'a pas le droit de tricher. Combien de CTLD, quel CTLD a été le premier à déployer le DNSSEC? Porto Rico, Suède, Danemark ou Allemagne? Et si je connais Roy, il doit y avoir un truc dans la réponse. Quand on dit déployer, moi je dirais, disons quand c'est signé. Ces noms ne sont pas des CCT, dit Dr. Lisa. Dan, au micro. Si je lis ça très précisément, ça dit quel pays était le premier. En fait, Porto Rico n'est même pas un pays, si on est honnête. Hein? Comment ça va? Vous êtes prêts? Alors, assurez-vous bien que votre nom est sur la feuille de papier. Est-ce que vous avez déjà fait ça, au fait? Vous aviez mis votre nom? Non, c'est vous qui avez changé l'écran? Je regardais, j'étais en train d'appuyer sur mon cliqueur et la présentation bougeait tout seul à l'écran. Rappelez-vous bien que vous avez un point pour chaque réponse correcte. Voilà nos choix. Quel TLD n'a pas déployé le DNSSEC? Quelle est la réponse? Ah, la réponse est A. L'Équateur n'a pas déployé le DNSSEC. B. Maroc. Qui est du Maroc ici? Oui. Le 16 février, ils ont mis leur DS dans la racine. C'est notre nouveau seigneur. Signataire, seigneur, pardon. Ils ont leur signature, mais ils n'ont pas les infos DS. Ils n'ont pas leur clé DS? Si, ils ont une clé DNS, je le savais. Très bien. Donc, on veut aller déjeuner. Le déjeuner arrive. Il faut qu'on se dépêche. Je suis l'arbitre. La réponse, c'est le A. Allez voir les infos ailleurs. Oui, oui, il a trouvé la réponse. Je ne sais pas ce qu'il dit. Combien de temps travailles-tu avec le DNS? Tu n'as pas écrit du logiciel, toi? Il a fait beaucoup de choses là-dessus, lui, cette personne. Alors, on doit continuer, sinon on ne va jamais aller manger. Que veut dire TPC et TPC.int? Est-ce que quelqu'un était là quand le TPC.int a commencé? Ah, c'est vous qui le gériez? Vous connaissez la réponse alors? D. La compagnie téléphonique, le phone company TPC. Moi, j'aurais eu la mauvaise réponse. Je n'étais pas au courant de cela. Ça, c'était bien avant moi. Quel INT domaine n'existe pas pour l'instant? A? Qu'est-ce que vous en pensez? D? La réponse est B. IP6.INT n'existe pas actuellement. Apparemment, Eurofish.INT est réel. Mettez le blâme sur Roy qui a fait les questions. Quelle est la prochaine question? Alors, qu'est-ce que le DO bit veut dire dans les demandes au DNS? La réponse est? Combien on dit la réponse A? B, D, C, C, qui est dit C? D, qui est dit... La réponse c'est D, DNSSEC, OK. Regardez ça dans le RFC si vous ne me croyez pas. Prochain choix. Qu'est-ce que 257, le chiffre 257 indique dans les infos des NSKI? Ah, oui, c'est la clé, la zone clé. Qu'est-ce que le NSEC3 algorithme? Qu'est-ce qui est valide au sein du NSEC3H? Roy dit seulement le A. La réponse A. Oliver dit qu'il a raison. Bon, puisque Oliver a écrit le RFC sur le NSEC3, il a donc raison. La réponse est A. Est-ce que je peux revenir en arrière? Oui. Le choix était seulement A. Donc, on continue. La question numéro 7. Que veut dire le CD bit dans la demande dans les requêtes DNS? B. Check-in disable. C'est la réponse correcte. Qu'est-ce que KSK? KSK veut dire? Dans le DNSSEC, qu'est-ce que cela veut dire? Ce dont vous me parlez n'appartient pas à cette conversation ici. Bien sûr, c'est le choix A qui veut dire clé de signature de clé. Combien y a-t-il de serveurs racines? C, D. Combien de personnes pensent que la réponse est A? Combien pensent que c'est B, C? Combien pensent que c'est D? Nous avons eu beaucoup d'opérateurs, les gens de chez RSAC me disent pourquoi c'est C? Pourquoi serait-ce C? Correct. Il y a 13 qui ont des IPv4 et seulement 11 d'entre eux ont des adresses IPv6. Jim, que dis-tu? Alors quoi? Vous me dites que la vraie réponse est 25? 26? La nouvelle personne dirait ce serait 27 maintenant. Pour tous les gens qui sont nouveaux aussi, nous sommes vraiment des geeks ici. Hein. Je peux vous dire... Donc, je vais... Utilisez la réponse de 24. 24, c'est correct. En fait, 26, c'est la bonne réponse parce que je n'entends pas la personne au micro. Hein. On va utiliser la réponse de Roy. Vous mettez le blâme sur Roy. Moi, je vais utiliser le choix numéro C. Si vous avez un problème, posez la question avec Roy, à Roy. Maintenant, quel pays qui était le premier à déployer le DNSSEC? Porto Rico, la Suède, le Danemark ou l'Allemagne? Quelle est la réponse? B, la Suède. L'intervenant dit, est-ce que Danemark ne serait pas Danemark? Ah, c'était supposé être une blague. Combien de personnes? Ajoutez donc vos réponses. Vous devriez avoir un total de 10 points cette fois-ci. On n'avait pas de réponses qui étaient des réponses multiples. Roy n'a pas fait son boulot. On continue rapidement parce qu'on veut aller manger. Combien de personnes ont une réponse? Une bonne réponse. Seulement une bonne réponse. Non, vraiment. On commence en... Non, je vais pas commencer avec les meilleures réponses. Disons, qui a 5 bonnes réponses? Au moins 5. Combien d'entre vous ont 6 bonnes réponses? Et 7 réponses? 8 bonnes réponses? 9 bonnes réponses? Nous avons match nul entre André et Oliver. Merci à tous. Nous remercierons Roy pour avoir fait tout cela. Si vous nous les aidez pour la prochaine quiz, nous serions heureux d'avoir vos informations. Allez au lunch. Julie va vous donner des informations. Donc, Julie au micro, amenez les tickets qu'on vous a donnés, les bons de déjeuner qu'on vous a donnés. Il n'y a seulement qu'une entrée dans l'endroit où nous allons déjeuner. Les trois autres côtés sont entourés d'eau. Donc, vous pouvez y aller en nageant, mais bon, votre ticket serait un peu mouillé hein, pour pouvoir rentrer. Donc, si vous n'avez pas reçu de bons d'entrée pour le déjeuner et que vous voulez nous rejoindre à nous pour le déjeuner, vous pouvez aller voir Andrew, il nous en reste. Mais pour venir déjeuner avec nous, il aurait fallu que vous soyez là depuis ce matin pour pouvoir avoir gagné votre déjeuner. Suivez la carte qu'il y a au verso du banc et bonne chance pour trouver l'endroit et nous vous voyons bientôt. Merci.
Just a note, this room will not be locked, so you probably...
Cette salle ne sera pas verrouillée, donc vous voulez amener avec vous tous vos biens personnels.
Should have been here all day.